dans cette demi-heure sur Radio Courtoisie quelques-uns des chefs-d'œuvre de la musique classique. Ainsi, à l'instant, vous aurez reconnu la marche turque de Mozart et juste avant la valse numéro 1 de Chopin, la lettre à Élise de Beethoven ou encore le concerto pour piano numéro 23 dont nous avons écouté l'adagio pour cette œuvre de Mozart, la musette et tambourin des fêtes d'Hébé de Jean-Philippe Rameau, le prélude de la partita numéro 3 de Jean-Sébastien Bach et nous avons commencé avec le menuet du quintet opus 11 numéro 5 de Boccherini. Toutes ces œuvres sont sur un même disque compact, le titre exact chef-d'œuvre immortel, paru aux éditions Accor. Prochain rendez-vous à 21h30, tout à l'heure, le Libre Journal de la Nuit en direct, dirigé par Paul-Marie Couteau. Et puis tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h. Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel.
Et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 juin 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 14, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la Résistance, bonsoir. Je vais d'abord lancer un appel à la rébellion. J'ai découvert que...
Rébellion.
Oui. J'ai découvert que ça faisait à peu près 140 000 fois, j'exagère pas, hein, 140 000 fois qu'on lisait Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, voilà. La radio libre, etc.
Alors, je vous le dis, moi personnellement, je peux plus. Je ne peux plus.
Ah, mais que voilà donc
une bonne
réaction.
Notre président de bien vouloir entreprendre une réforme. Même l'Église a changé le canon au bout de 2000 ans. Donc je pense qu'on peut changer ce canon là aussi. Parce que.
Eh bien, je me joue.
À raison de 10 fois par jour, 350 jours par an pendant 20 ans, ça commence à faire beaucoup.
Et le CSA va nous tomber dessus.
Et les auditeurs se plaignent beaucoup.
Ils se plaignent d'entendre ça.
Ils m'écrivent. Je crois que je peux quelque chose.
Non mais attendez, mais c'est un manque d'optimisme parce qu'il faut quand même se dire que si nous avons des nouveaux auditeurs à chaque fois, ceux qui rêvent de toute radio, il faut bien le leur rappeler.
C'est Jean-Paul Le Perlier qui vient d'intervenir.
Oui, mais voilà,
avec son esprit de contradiction habituelle.
Ça n'oblige pas à
le répéter toutes les heures.
Enfin bon, je dis ça. Chacun en fait ce qu'il veut, mais je lance un appel. Je lance un appel à mes camarades directeurs d'émission en disant on va tous aller manifester à Versailles sous les fenêtres Henri de Lesquin pour réclamer. Nous voulons un nouveau canon. Nous voulons. Bon.
Non, mais attendez, mais j'imagine dans une demi-heure quelqu'un ouvrant pour la première fois sa radio, puis disant Roro, Jean-Paul Leperlier, comme c'est intéressant, je ne peux pas quitter cette radio, quelle est-elle? Et si à ce moment-là, on leur dit pas que c'est Radio Courtoisie, j'aurais parlé pour rien.
Moi, j'ai une proposition à faire, c'est vous écoutez Radio Courtoisie, envoyez du pognon.
Voilà. Ah oui, ben, c'est court, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai pour...
Le mot pognon peut être remplacé par
élégance, si on veut. Passer la monnaie.
Alors, donc, autour de moi. D'abord, le marquis n'est pas là, parce que le marquis est parti...
au château de Curzay, le pauvre malheureux.
Pas au château de Curzay, oui.
Mais il faut bien qu'il mondine un petit peu pour...
Il y a bien de la misère, il va manger de l'angélique.
Voilà. Au château de Curzay. C'est du côté de Poitiers.
Il va peut-être nous appeler tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis, j'ai une angoisse, parce que je croyais avoir dit à Rondeau qu'il y avait une émission ce soir, mais je m'interroge, finalement.
Donc vous allez nous expliquer vous-même la TVA?
Non, je pense que s'il m'entend, Jean-Pierre, si vous m'entendez, appelez-moi, parce que je suis pas certain de vous avoir dit qu'il y avait une émission ce soir. C'est très difficile de savoir quand il y a des émissions et quand il n'y en a pas.
Oui,
ça change beaucoup.
Vous n'avez pas l'air vous-même très au point, d'ailleurs, à chaque fin d'émission, à la semaine prochaine,
peut-être
non
bien, oui, peut-être bien que non.
François. Alors, Robot, bonsoir François.
Bonsoir, moi j'avais préparé un banc d'essai sur les différentes vodkas que l'on peut trouver sur le marché français, les russes et les polonaises, malheureusement, je n'ai pas eu
vous
le temps.
Vous avez été doublé.
On l'a fortement déconseillé, donc je vais remettre à une date ultérieure.
Je vote pour les polonaises, même si ça fait de la peine à certains, je trouve que vraiment les polonaises sont délicieuses. Ça grogne de tous les côtés.
Je ne pratique d'ailleurs plus la vodka.
Ah bon,
ni aucune boisson alcoolisée.
J'ai aussi appris que le président Poutine ne buvait absolument pas une seule goutte d'alcool.
Comme le président
Sarkozy. Qui est-ce qui a fait boire Sarkozy l'autre jour, alors?
C'est lui. Il a eu une migraine. Toutes les radios et télévisions qui n'ont jamais expliqué ce qui s'était passé nous explique maintenant qu'il avait une migraine. Une migraine. Moi, je ne savais pas que une migraine, ça fait... Excusez-moi d'être en retard, j'étais revenu par un autre instant avec le président Poutine. Moi, j'ai eu des migraines, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, et en général, c'est pas cette
histoire. Victoria, nous venons de faire allusion à une conférence de presse de Sarkozy après une entrevue avec Poutine au G8, qui a été diffusée par une télévision belge sur le net, sur le site Sarkozystan. Point net et où Sarkozy semble pris de boisson.
Or, il ne boit jamais, paraît-il.
Mais attendez, mais il est tellement doué pour plaire qu'il s'est peut-être dit que les Français ont une petite sympathie pour les gens qui ont une faiblesse pour les divines bouteilles. Il est capable de ça et d'avoir fait semblant d'avoir bu un petit peu pour avoir la sympathie des braves paysans. Oh, ben c'est un gars bien chez nous, celui-là, au moins, il sait ce que c'est que la bouteille. Alors, je dirais que la vodka est délicieuse, à mon avis, est très tresse parce qu'on la boit à moins de 33 degrés centigrades dans des verres givrés. Et qu'à ce moment-là, on a l'impression de boire du petit lait. On ne sent pas l'alcool. Ça ne vous arrache pas la bouche comme certains alcools. Et on peut boire énormément de vodka sans réaliser ce qu'on a bu.
Oui, et on est mort avant de se rendre compte qu'on est sous.
Oh, c'est bon, une bonne vodka.
Vous me présentez aussi, Serge, même si c'est la millième fois où je me présente moi-même.
Ah oui, Goffman, auteur de différents ouvrages dont je ne citerai pas les titres parce que Batafam, c'est quand même pas acceptable. Et
pourtant, ça n'est que 10 euros à l'ordre de Patrick Goffman, 4 places 36, 75 euros
disparus. Il est à droit. Bon. Alors, on va faire comme d'habitude, si vous voulez bien, comme d'habitude depuis deux semaines, quoi, depuis deux émissions. On va lire les petites annonces d'abord. Vous êtes prête ou pas?
Non,
vous
n'êtes pas prête. Non, d'habitude, il faut que je me batte.
Voilà, je vais lire le courrier. Voilà, bah, regardez les petites annonces.
Il n'y aura pas d'émission. Attendez, quand je vois la pile de courrier, il y en a au moins 3 cm.
Écoutant le Libre Journal, je vous ai entendu rappeler l'histoire de la voiture de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Ça, c'est un auditeur des Vosges qui m'écrit. Hein, les Vosges, j'ai entendu dans les Vosges. Que je connaissais depuis très longtemps pour l'avoir découverte sous forme de bande dessinée dans Pilote ou le journal Tintin. Je ne me souviens plus. Moi, je me souviens très bien parce que j'étais l'auteur de la bande dessinée dans Pilote.
Donc,
aussi, quelle ne fut pas ma surprise, et celle de mon frère, lorsque nous vîmes cette voiture exposée au musée militaire de Vienne en août 75 avec une mention ne laissant aucun doute sur son origine. S'agirait-il alors d'une légende quant à sa disparition durant un bombardement? C'est possible que ce soit une légende. C'est possible aussi qu'on ait reconstitué la machine pour l'exposer. J'ai pas d'informations là-dessus, mais je ne manquerai pas de faire une enquête poussée. J'irai même peut-être jusqu'à Vienne.
C'est peut-être comme les chapeaux de Napoléon.
Non, mais c'est intéressant.
Il y en a peut-être dans tous les musées.
Oui. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas démenti par notre auditeur, c'est que cette voiture était maudite. Alors, j'ai été très choqué par ce qui a été dit au cours du libre journal de Beketch sur notre Saint-Père le Pape. Parler du Pape en le nommant Benoît manque totalement de respect, et qui plus est sur un ton légèrement ironique. Que M. de Beketch ne soit pas d'accord avec la position sur la Turquie est une chose, mais qu'il garde du respect pour celui qui est le chef de notre Église. Ce n'est pas un bon exemple pour Radio Courtoisie. Soyez, s'il vous plaît, les garants de nos dernières valeurs. Mais moi, quand j'appelle le pape Benoît, je ne fais qu'imiter l'Église depuis 2000 ans, qui a toujours donné son prénom au pape. C'est pas son Excellence Monseigneur Ratzinger, c'est Benoît.
On peut peut-être trouver pire mécréant que Serge de Beketch en
ça
cherchant bien.
Ça doit pouvoir
bien,
hein. Se trouver en cherchant bien. Non, j'ai le plus grand respect pour Benoît, sauf évidemment quand il dit que la Turquie doit entrer dans l'Europe parce que c'est, si j'ose dire, pas ses oignons. Et où, quand il se fait bénir par un rabbin, comme ça lui est arrivé récemment, ce que je trouve bizarre, tout, moi, j'ai rien contre les rabbins, Dieu sait, vraiment rien du tout, mais je vois pas en quoi la bénédiction d'un rabbin qui n'est jamais qu'un instituteur, parce qu'un rabbin, c'est pas un religieux, c'est un enseignant, comme un imam d'ailleurs. Donc moi, je veux bien qu'il se fasse bénir par un instituteur, mais alors ça va finir, il va finir par se faire bénir par le prof franc-maçon de physique du lycée La Mauricière, ou La Morinière, pour faire plaisir à Jean-Pierre. On vous a entendu récemment dire « finaliser » sur Radio Courtoisie. Alors là, il y a un mot que je peux pas citer, du territoire, à propos du territoire, ne vous suffit-elle pas que vous contribuiez maintenant à répandre un vocabulaire d'exhibitionniste? Voilà.
Traduction.
Je dis ça parce que c'est extrêmement sympathique et agréable quand vous essayez de faire des émissions un peu intéressantes depuis des années, tout, en sacrifiant du temps, enfin en consacrant de l'énergie, de l'intelligence, du temps et tout, que ce monsieur qui ne signe pas d'ailleurs, je suppose que c'est un monsieur. Mais la signature est intéressante parce qu'il signe pas seul. Qui n'est pas son nom, mais ça rappelle l'écriture, puisqu'on en parlait à l'instant. Hein? Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Voilà, nous vous prions de bien vouloir noter qu'un nouveau code pour la porte d'entrée de l'immeuble va être mis en place. Non, ça n'intéresse pas directement nos auditeurs. Un autre auditeur me dit, il m'envoie une photocopie du portail, un tirage du portail internet du gouvernement, Premier ministre. À propos de la ministre de la Justice, dont j'ai dit qu'elle était...
Marocaine.
Marocaine, c'est son problème,
pardon.
Je m'en fous. Elle est française.
Ah bon.
Mais d'origine, peut-être, effectivement, marocaine.
Mais selon Jean-Marie Le Pen, elle a la double nationalité. Qu'en est-il?
J'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. En tout cas, j'avais dit qu'elle n'avait pas de diplôme. Et alors, cet auditeur m'envoie... donc, le portail, ça, c'est très officiel. Il y a le cursus.
Soyez poli.
Maîtrise en droit public. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Moi, quand j'étais gamin et qu'on savait que j'allais rater le bac, ma mère me disait, tu devrais préparer une maîtrise de droit. Parce que quand on n'était pas capable de réussir le bac, on faisait une maîtrise de droit à l'époque. Alors donc, elle a une maîtrise de droit.
Non, une capacité en droit.
Capacité
en droit, là on peut, mais une maîtrise de droit,
maîtrise,
c'est quand même.
C'est
bac plus 4.
Bac plus 4. Donc elle a le bac.
Je suis malheureux titulaire d'une maîtrise, alors je me sentais vexé un peu là quand même. Je suis arrivé au sommet de mes forces, arc-bouté.
Oui, cette capacité, c'est vrai, ça me revient. Je disais à ma mère, au moins vous reconnaissez que j'ai des capacités.
Capacité en droit, incapacité en fait. Voilà. Cinq années d'études de droit et tout le reste de travers.
Bon, alors voilà, donc ben, je m'excuse, enfin je demande à Madame Rachida Dati de m'excuser.
S'il vous plaît.
Il a corrigé. Et en plus, c'est moi qui passe pour un provocateur. Cher monsieur fidèle auditeur et cotisant à Radio Courtoisie, je me permets de vous écrire pour vous reprocher votre prise de position unilatérale et sans nuance, pro-Maigret, dans la lutte de celui-ci avec Marine Le Pen. Je ne savais pas que Maigret était candidat contre Marine Le Pen.
Non, la lutte, il lutte dans la boue. Mais enfin, c'est un spectacle réservé à quelques initiés.
Le moins que l'on puisse souhaiter est d'entendre prochainement sur votre radio, fût-ce chez un autre patron d'émission, le point de vue adverse. Attendez, mais quel point de vue adverse? Parce que ils ont des points de vue opposés, le Front National et le MNR. Si j'avais simplement pu découvrir en quoi ils étaient opposés, à part des querelles imbéciles de personnes, j'aurais pu...
Au contraire, hein, l'union patriotique.
L'union patriotique. Et alors, ça, j'aurais jamais cru... Je vais l'envoyer au CSA, je vais le faire encadrer. avec un beau cadre doré et tout. Je l'ai envoyé aussi à ça parce que on m'a Dieu sait qu'on m'a reproché. Hein, de, ouais, Béquel, c'est l'émission du Front National, vendu, patin couffin, etc. Alors, je vais vous lire la lettre parce que quand même, elle mérite le déplacement.
L'antenne fait un mètre de haut à vue d'ici.
Oui.
Et 2 mètres de large.
Dans le cadre des temps de parole accordés. Alors d'abord, enfin bref, je vous passe l'orthographe, c'est pas la peine. Mais après tout, il fait peut-être mieux les nœuds de cravate que les mises orthographiques. Bien. Aux candidats aux élections législatives fixées par le CSA, vous êtes tenus d'accorder le même temps d'antenne à chacun. Il n'a pas dit à chacune et à chacun, exceptionnellement. Or, concernant la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, très important la 12e circonscription, il ne faut pas rigoler avec ça, hein. Je remarque que M. Maigret a été reçu au moins 2 fois sur votre station. Je vous demande en conséquence de rectifier cette omission à mon égard. Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir me répondre au plus vite et au besoin de me contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
C'est le candidat
Gérald Guérin,
c'est l'homme de la LCR. C'est le candidat de la LCR à Vitrolles.
Non, non, c'est l'ex-candidat du Front National à Vitrolles, qui est celui qui fait les notes cravates.
Mais la LCR, vous l'avez reçu, Serge
dans le... Non, non. Ils n'ont pas voulu venir. J'ai proposé, mais ils n'ont pas voulu.
Les verts
alors,
non plus.
Moi, je veux bien qu'on m'engueule pour tout, parce que j'ai dit comment finaliser, parce que je me suis trompé sur la bagnole de Sarajevo, parce que mais que un type qui était même pas né, alors que j'étais déjà sympathisant et compagnon
décoré
route du Front National, décoré de la flamme de bronze, vienne me pomper l'air en me mettant, en me sommant de le recevoir dans mon émission, alors je peux dire que celui-là...
Jamais.
Je ne sais pas s'il viendra à Radio Courtoisie, mais ça ne sera pas dans mon émission, je le dis carrément. Hein, voilà, comme ça c'est clair. D'ailleurs, il n'a pas le temps, il faut qu'il époussette les costumes du patron, qu'il fasse les bagages, qu'il repasse les cravates et tout. Chacun son boulot.
Puisque c'est le majordome donc, monsieur Le Pen qui l'a envoyé contre Maigret à Vitrolles.
Le majordome de Le Pen, oui. Dans la série mélangeons pas les sujets, les communautés catholiques de Pontoise, fabuleuse, ont distribué, dans le temps on disait les paroisses, la paroisse, bon, maintenant c'est les communautés catholiques, alors a distribué à la veille du, enfin le matin d'ailleurs des élections. Du deuxième tour des de la présidentielle, on l'en va simplement maintenant, un document, un tract, qu'as-tu fait de ton frère ? La mondialisation et l'immigration. Peut-on à la fois pratiquer la liberté du commerce tout en barrant la route aux émigrés et en envoyant chez eux ? Alors, mais oui, on peut. D'ailleurs, on peut. C'est exactement ce que fait ma boulangère, par exemple. Ma boulangère, elle me vend du pain. Mais si je lui dis, j'ai envie de coucher dans votre lit ou de m'installer à votre table pour bouffer...
C'est une blague, venir... Daniel. C'est oui. Pour rire.
Elle va me dire, barrez... Oui, surtout que ma boulangère, je pense qu'il a des écus, mais bref. Elle va me dire, mais barrez-vous. Mais foutez le camp. Je vous vends du pain... Et je vous achète votre journal si j'ai envie de l'acheter, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais vous n'allez certainement pas vous installer chez moi. Donc la liberté du commerce, crétin, n'a rien à voir avec la liberté d'immigration. C'est pas parce qu'on achète des chemises aux Chinois et qu'on leur vend des centrales nucléaires qu'ils ont le droit de venir s'installer chez nous ou que nous on a le droit de s'installer chez eux.
Ils vont repartir alors.
Qui les Chinois ? Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas les pires.
C'est les moins gênants, je dirais pas qu'il y en a pas beaucoup, hein? Mais c'est les moins gênants.
On les voit pas.
Au niveau du désordre.
On les entend pas, ils règlent leurs affaires tout seuls.
Le 13e, paraît-il, est un des arrondissements les plus tranquilles.
Tranquille, bien sûr.
Ils sont leur petit.
Alors, il ajoute, ce crétin, nous estimons normal que notre pays définisse une politique de l'immigration trop aimable. Trop aimable. Dans l'Église, cependant, il n'y a pas d'étrangers. Le baptême fait accéder où que l'on soit à la citoyenneté chrétienne et l'Évangile nous appelle à une fraternité universelle. Abruti, c'est pas une citoyenneté chrétienne. Mais c'est pas croyable. Ce type écrit absolument n'importe quoi. Il bourre le crâne de dizaines et centaines de fidèles qui mangent ça qui avalent ça comme du bon pain. C'est abruti. Il nous parle de la citoyenneté chrétienne. Non mais il rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est la citoyenneté chrétienne? C'est citoyen chrétien? Enfin, et la fraternité universelle? Mais vraiment, la fraternité universelle? Non mais non. Comment on peut dépenser le fric? L'Église passe son temps à dire qu'elle a besoin d'argent, et on dépense du fric pour imprimer des tracts comme ça? Imbécile.
Ne parlez pas si vite, ni tous en même temps, on ne comprend rien. Ça, d'accord. C'est une auditrice qui vous dit ça.
On ne parle pas tout pour l'instant.
Elle est doucement.
Je suis le seul à avoir parlé pour l'instant.
Articulez lentement.
Et ça va durer, je vous le dis.
Bon, ben, au revoir.
Alors voilà. Ça, c'est... Les deux chaînes de la télévision en Belgique, la RTBF, la 1 et la 2. Ce ne sont pas cons, les Belges. Deux chaînes, la 1 et la 2, comme en France. On laissait entendre vendredi 8 que Nicolas Sarkozy était sous. Sa première conférence de presse au sommet du G8 de Heiligendamm, jeudi soir, Libération.fr a finalement choisi de montrer la vidéo de Nicolas Sarkozy. Alors, il dit, et puis, je ne résiste, c'est le présentateur, et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment il n'avait pas bu que de l'eau. Il a peut-être bu un peu de gueuse l'alambic. Voilà. Alors, et le présentateur conclut, Michel Dardenne a de la concurrence. Alors, il faut savoir que Michel Dardenne, c'est un sous-ministre, sous-secrétaire d'État...
D'Outre-Quiévrin.
D'Outre-Quiévrin, qui est accusé de boire, le pauvre. Et or, lui, il dit, je ne bois pas, c'est une difficulté de la question. Mais c'est vrai, je ne blague pas. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, il faut le regarder, Sarkozy. Si vous avez Internet, allez-y. Vous allez sur sarkozistan.
Point net, je crois.
Point net, point info. Enfin,
de toute façon, c'est facile à trouver
et
par
puis,
Google.
D'abord, voilà, par Google, vous tapez
ici. Différents journaux le diffusent également.
Ah bon? Voilà. Je vais te dire que c'est spectaculaire parce qu'il arrive. Et alors, il dit, donc il s'excuse, il dit, je m'excuse parce que j'ai un peu en retard. Et puis, il dit, bon, alors, si vous préférez que je fasse un discours ou vous posez des questions. Bon, alors, y a-t-il des questions? Je veux bien, ça soit la migraine, mais enfin, quand même, c'est une migraine grave, c'est ouais. Grave.
Hein. Et il contient visiblement un fou rire, un violent fou rire, bon.
Oui.
Il faut dire qu'il boit jamais, ça c'est sûr, et ça explique que le ou les deux verres de vodka que Poutine lui a servi, peut-être pour fêter la prise de contrôle de Pernod Ricard sur la vodka russe Stolichnaya.
Stolichnaya, ouais.
Il lui a peut-être dit, voilà, arrosons la fusion Pernod Ricard-Stolichnaya. Tu n'as pas refusé un verre. Tu m'insultes.
Mon pion. Alors, il y a le marquis qui est au téléphone. Allô, marquis.
Comment allez-vous?
J'ai pas mis mon casque. J'ai pas chaussé. Allô, marquis.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, marquis. Ça va et vous?
Ben, ça va bien. Je vois que vous vous amusez bien sans moi, là. Je suis
très sûr. Oui, vous nous manquez, bien sûr.
Vous nous faites une belle imitation de Sarko, là.
Est-ce qu'on fait de la vodka avec l'angélique?
Non, mais on peut se saouler. On fait de la liqueur d'angélique. C'est assez violent. Voilà, oui.
La liqueur d'angélique, vous connaissez ça, François?
Je crois que c'est dans la région niortaise, marquis, non?
Non, c'est... Ah ben non, moi je connais rien à la géographie, c'est dans le Poitou-Charentes.
Moi non plus d'ailleurs, mais c'est pas grave, je suis des villes.
Dans le Poitou-Charentes et la région niortaise, c'est quand même assez proche. Hein.
Eh ben voyez-vous.
Voilà, la Sèvre niortaise, c'est quand même dans ce coin-là.
Ah ben voilà, c'est ça.
Voilà. Il va passer une semaine dans un lieu de paradis et il sait même pas où il est. Non mais vraiment.
Ben, non, mais je suis traumatisé par le fait que c'est le fief de Ségolène, hein, c'est ça le truc.
Ah ouais.
Et alors, ben, le château de Curzet, c'est le siège du chapitre de l'Angélique, voilà.
C'est joli, ça, le chapitre de l'Angélique. Ça fait rêver, hein.
Et rien à voir avec la marquise des Anges.
Non, pas
j'allais
du tout,
dire, mais c'est pas osé.
Angélique, marquise.
Il y a quelques vieilles marquises dans l'affaire, mais elles sont pas aux anges, hein, ça c'est clair.
c'est pas un camp indien, non?
Oui, ben, voilà, je vois à quoi vous faites allusion. Non, non, il y a que non. Moi, je vous rassure.
Ok.
Non, mais ça reste
entre nous. Non, oui, ça reste complètement entre nous. Alors, donc, vous avez été convié pour l'inauguration de quelque chose qui a à voir encore avec l'Angélique, ou c'est simplement pour le plaisir d'aller...
Pas du tout, j'ai voulu échapper 8 jours à Paris et voir de la verdure, donc je suis venu là, c'est un endroit que j'aime bien, puis voilà, on y mange très bien, les chambres sont très belles, et il n'y a personne, donc c'est parfait.
Ah bah c'est voilà. Bien, surtout s'il n'y a personne, ça doit faire plaisir aux propriétaires.
Non, mais enfin, il y a un peu de monde pendant les week-ends, je vous rassure.
Ah bon,
mais là, en semaine, on est tranquille. Je vais pouvoir écrire pour le Libre Journal en toute quiétude.
C'est là que les clients arrivent en hélicoptère, non?
Il y a un machin là pour poser des hélicoptères, mais pour l'instant, non, ils viennent en safrane. Tout ça, c'est plutôt...
C'est des... Parce qu'ils font des prix en ce moment, alors, peut-être, non?
Bah, pas à moi.
Bien, bah, écoutez, c'est tout ce que vous avez à nous dire. Vous êtes remis des émotions que vous a procuré, que vous ont procuré les funérailles de Brialy?
Ah oui, j'en suis très bien remis. Surtout que je lis maintenant les retombées dans la presse. Bah, ça continue à être totalement idyllique. Je me demande quand est-ce qu'on va mettre en route la canalisation. Je m'étonne même que ça ne soit pas encore commencé.
Mais c'est un peu long, je trouve aussi.
Oui, hein, mais sur l'instant, je pensais qu'on allait le canoniser.
Alors,
c'est peut-être un garçon gentil, mais enfin, sans plus. Il faut pas exagérer non plus.
Voilà, ben, je pense que nos lecteurs pourront... découvrir dans le Libre Journal
numéro 410 qui est sorti des presses aujourd'hui,
une page qui est un morceau d'anthologie que vous avez consacré aux funérailles de...
Ça ressemble pas trop à point de vue Image du Monde, hein,
non, pas vraiment, on peut pas dire ça. Mais il faut quand même rendre cette justice aux défunts qu'ils n'avaient pas voulu ça, vous le dites vous-même.
Ah oui, absolument,
c'est un espèce de grand cirque.
Mais ça lui a échappé, voilà.
Il avait demandé des funérailles dans la discrétion et l'intimité, et ouais. Il a eu droit à une espèce de Medrano invraisemblable.
Mais il manquait que Lynn Renault parce qu'elle était à l'étranger, mais sinon tout le monde était là, vraiment, c'était très étonnant.
En tout cas, elle a gagné Lynn Renault, parce que la course était engagée pour savoir lequel assisterait au funérail de l'autre, et du coup elle n'est pas venue en plus.
Non mais elle est inoxydable, alors voilà.
Bon, moi je tiens à souligner que vous y étiez, cher Marquis, alors que la grosse presse était tenue à distance, à plus de 100 mètres. Donc le reportage que vous publiez dans le Libre Journal numéro 410 est absolument exclusif, en plus d'être cruel.
Je vais pas te vous soyez, je vais te dire tu. C'est ça ce qui est bien d'être de la petite presse, c'est qu'on fait penser.
Non mais l'injustice repose quand même sur le fait que tous les journaux qui ont ciré les bottes de Brialy sont restés à 200 mètres de l'entrée de l'église, et celui qu'on a laissé rentrer, disons qu'il ne participe pas à l'adulation générale, voilà.
Voilà.
Eh ben, merci, profitez bien de vos angéliques voisins et voisines.
Je voulais vous saluer et que Dieu vous garde.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Ce numéro du Libre Journal est en vente pour 5 euros ou un carnet de timbre. Alors de SDB à SDB 4 place 36 75 010 Paris. C'est le numéro 410 du Libre Journal.
Et vous recevez un message de Jean-Pierre Rondeau qui vous dit: je sors de réunion, je termine les ISF de mes clients et les IR par internet, et un décès dans ma famille d'un de mes très proches collaborateurs bouscule mon emploi du temps. Je pars pour la Bretagne demain matin, première heure. Je présenter mes excuses et saluer les auditeurs, amitié, Mondo.
Bon, bah c'est gentil à Jean-Pierre de nous avoir appelé. C'est un peu, bon, c'est triste bien sûr pour son collaborateur, mais c'est ennuyeux pour nous parce que je voulais l'interroger sur l'augmentation de la TVA, mais on fera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a une émission, je suis à peu près certain. Voilà, donc... On fera ça, on lui posera la question. Alors, je continue à lire les informations. Rachida Dati contredit Nicolas Sarkozy, nous explique les journaux. C'est sur Europe 1 ce matin. Elle a annoncé que le projet de loi sur les peines planchers pour les délinquants récidivistes mineurs et majeurs sera présenté demain au Conseil des ministres, parlant de dérives inquiétantes. En 5 ans, le nombre des condamnations en récidive pour les délits et crimes a augmenté de plus de 70%. Alors, ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est que hier... Madame Alliot-Marie, nouvelle ministre de l'Intérieur et ancienne de la Défense, a traité carrément de menteur son contradicteur qui expliquait que les crimes et délits avaient augmenté de 70%. Elle dit, c'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça, ils ont diminué. Alors, il faudrait qu'elle se mette d'accord avec sa copine garde des Sceaux, parce qu'autrement, on va arriver au chaos ministériel encore plus vite qu'on ne pouvait le craindre. Alors le système, la peine minimum, enfin l'instauration des peines planchers, c'est très intéressant. C'est pour les récidivistes, 1 an minimum, hein, quand le délit est puni de 3 ans. 2 ans quand la peine encourue est de 5 ans, 3 ans quand la peine encourue est de 7 ans. 4 ans quand elle est de 10 ans. Bien. Et puis 17 ans pour une condamnation qui normalement valait la perpétuité. Ça c'est la peine minimum en cas de récidive. Alors, on dit à Madame Rachida Dati, c'est quand même nouveau, c'est peut-être un peu violent. C'est vrai qu'un type qui a tué pour la deuxième fois quelqu'un, lui dire qu'il va rester au moins 17 ans en prison, c'est peut-être un peu dur quand même, c'est un peu
Oui, quand même.
Vous êtes d'accord avec moi?
Qu'est-ce qu'ils appellent des peines planchées?
La peine au-dessous de laquelle on n'a pas le droit d'aller.
D'accord, mais oui, quand même. Alors, est-ce que malgré tout, ils ont droit à remise de peine une fois qu'ils ont eu cette peine
planchée? Ah bah oui, ça c'est autre chose.
Déjà, pour commencer, c'est indicatif. Mais, on m'a expliqué sur le
radio. Alors, justement, alors voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ayant dit ça, Madame Rachida Dati, qui est prise à partie par les socialistes, qui dit mais c'est inadmissible, c'est très grave, vous rendez compte, vous pourrissez la vie, vous gâchez la vie de jeunes,
des assassins,
qui pourront pas récidiver en quelque sorte.
Rassurez-vous, très vieux. C'est du pipeau.
Rassurez-vous, ça n'est qu'une indication. Le juge garde parfaitement la liberté d'infliger des peines inférieures. Et c'est finalement
c'est un effet d'annonce, en somme. C'est un effet d'annonce.
Alors voilà. Alors on fait une loi. Et alors avant, ils faisaient la loi, ils attendaient quand même 3 jours pour dire que non, de toute façon, elle ne serait pas appliquée. Mais là, ils font la loi, ils annoncent la loi, elle n'est pas encore votée, qu'elle nous dit déjà, de toute façon, on ne l'appliquera pas. Voilà. C'est bien, comme c'est sympathique.
Nous avons, Serge de Becquetch, 500 000 lois, et on attend avec impatience qu'on en applique une seule. Le décalogue, par exemple.
Alors ça, c'est le gag de la soirée. Je vous le dis pas en anglais, parce que je vais me faire finaliser par un auditeur. Non, puis j'ai pas les moyens de mettre...
Moi, je vais râler.
Alors, le Pentagone confirme qu'il fait des recherches pour construire une bombe anti-gay. Non, pas anti-gay, une bombe gay. Alors, c'est ça. Écoutez bien, parce que c'est très, très intéressant.
Enola gay, peut-être.
Non, c'est pas Enola, c'est... Alors, une organisation de watchdog, de chien de garde de Berkeley, qui étudie les dépenses militaires, a découvert une étrange proposition de créer une de créer une bombe à hormones qui pourrait transformer les soldats ennemis en homosexuels. J'invente rien, je vous jure que c'est vrai, c'est publié dans...
Mais je croyais que c'était très bien.
Ah ben non, mais justement, c'est ça, on va pouvoir enfin les embrasser. Et les rendre plus intéressés dans les activités sexuelles que dans le combat militaire. And make them more interested in sex than fighting, c'est ça que ça veut dire, non? Bon. Alors, un officier du Pentagone a confirmé... l'information, mais il a simplement rejeté l'appellation de gay bomb. Alors, moi, ça m'inspire quand même un petit commentaire, hein, c'est que...
Excusez-moi.
Non, mais c'est ahurissant, parce que on voit à quel niveau on en est arrivé, quand l'objectif, c'est pas idiot d'ailleurs, c'est de dire, on va balancer des hormones sur les soldats, et ils vont s'intéresser plus au sexe qu'à la bagarre. Mais pourquoi au sexe homosexuel?
J'ai une idée, Serge.
Non, mais attends, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi ça? Pourquoi justement celle-là?
Je viens de comprendre.
Il y a une activité sexuelle normale.
Je viens de comprendre 30 ans après pourquoi, pendant mon service au premier SPAI, tous les matins au rassemblement, le capitaine hurlait « Vous êtes tous des cons, vous êtes tous des pédés.
» Genre là. Et puis c'est la guitoune de l'aumônier. Hein. Bon. Voilà. Non, mais enfin, franchement, on vit dans une société... Moi, finalement, je m'amuse. Je pense que je vais mourir de tristesse, mais j'aurais bien rigolé avant. Voilà. Alors, excellent, quoi d'autre comme information? C'est à peu près tout ce que je vois.
Serge, vous vous faites danser par un auditeur.
Ah, c'est bien la première fois.
Gentiment, mais fermement.
Viens danser.
Vous me faites penser, dans votre façon de vous exprimer, au pied nickelé de la droite nationale. De l'humour, oui, mais un peu de sérieux, s'il vous plaît. Attend de vous un certain retour aux fondamentaux de votre émission qu'on apprécie.
Mais ben, les fondamentaux, ils sont connus maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je parle des fondamentaux? Je veux dire, moi, je suis... Alors voilà, les fondamentaux, parlons-en. Pendant moins 2 ou 3 ans, j'ai manifesté mon opposition à la ligne défendue par Marine Le Pen et... comment il s'appelle?
Louis Alliot. Autrement dit, Alliot Marine.
J'ai donc dit que j'étais pas d'accord. Or là, je suis obligé de reconnaître, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, que j'avais tort et qu'ils avaient raison. Parce que tout ce qu'ils voulaient faire avec le Front National, ils l'ont fait et ils ont parfaitement réussi. Hein. il voulait chasser l'extrême droite, puisque je n'invente rien. Ils ont dit, j'ai porté l'extrême droite comme un boulet pendant 30 ans. Alliot a dit qu'il voulait rompre avec les groupuscules d'extrême droite, bien entendu. Marine Le Pen a dit qu'elle ne considérait pas du tout qu'elle avait quoi que ce soit à voir avec l'extrême droite. Donc, ils ont viré l'extrême droite du Front National. Ça, c'est clair. Et ils ont bien eu raison, parce que bon, c'est très très mal d'extrême droite. Bon, première chose. Deuxième chose, Alliot a dit « Le Front doit rompre avec son habitude de rassemblement avec des milieux groupusculaires qui n'apportent que des ennuis. » Les cathos tradis de Bernard Anthony. Donc ils ont viré les cathos tradis.
Bon débarras.
Bon débarras.
Bon débarras.
Alors, attendez,
ils ont viré les païens il y a quelques temps. Maintenant,
ils
virent les cathos tradis. Qu'est-ce qui va rester?
Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont viré encore?
Je ne sais pas si on a le droit de le dire.
Ce qui va rester?
Non. Oui, je crois qu'on n'a pas trop le droit de le dire.
Oui. Alors, donc voilà. C'est une réussite totale. Ils ont complètement lustré, au sens... Les Polonais, tu sais, vous savez, emploient cette terminologie maintenant. Ils ont parlé de la lustration de l'administration polonaise quand ils ont viré tous les gens qui avaient collaboré avec le système soviétique.
Oui, c'est pas fini, ça. Je vous oubliais quand même qu'après les cathos tradis et les païens, M. Alliot dit au monde,
bien sûr,
qu'il va encore virer la moitié... des secrétaires, alors il dit des secrétaires généraux, c'est un lapsus parce qu'il est lui-même secrétaire général, il va pas se virer lui-même, il veut sans doute parler des secrétaires fédéraux, départementaux.
Ouais.
Et les gens, certains responsables de la présidentielle qui ont fait preuve de mauvais esprit. Bon, là, heureusement, il y en a très peu, c'est-à-dire que bon, par exemple, à la convention de Lille, il y a très peu de gens qui ont sifflé Marine.
Il faut citer très très précisément. Il a annoncé au Monde, je le dis par parenthèse, parce que c'est pas moi personnellement, ça me gêne pas du tout, bien au contraire, mais M. Alliot, qui entretient les meilleures relations avec la grosse presse, Le Monde, Libération, etc., a catégoriquement refusé de rencontrer les responsables de la presse nationale, à savoir votre serviteur, Camille Gallic, et je crois que Jean Madurand a eu la grâce d'une rencontre avec Marine Le Pen, mais nous, non, string verboten. C'est vrai qu'on est d'extrême droite et cathos tradis, donc c'est pas possible, contrairement à Jean Madurand, sans doute.
Ben, donc, Jean Madurand souhaite que Marine succède à son père, à la une de présent.
Son analyse est parfaitement fine, elle est, effectivement, étant donné la réussite, la victoire de la ligne Marine et Alliot, ou la ligne Alliot-Marine, c'est normal de lui confier la succession. Moi, je trouve ça, c'est justifié comme attitude. Si elle avait échoué, on dirait non, mais si elle a parfaitement réussi, il voulait virer, je le répète. L'extrême droite, elle est partie. Les païens, ils sont partis. Les cathos, ils sont partis.
Les secrétaires fédéraux.
Et alors, à propos des secrétaires fédéraux, Alliot a dit qu'il a confié au Monde, auquel il parle, qu'il envisageait le renouvellement de la moitié des secrétaires départementaux par des mises à la retraite et des remplacements dictés par le mauvais esprit de certains responsables lors de la présidentielle. Alors, simplement, là, moi, j'ai un petit mouvement d'inquiétude, parce que sauf erreur de ma part, ce qui est toujours possible, les départementaux en question, ils ont été sinon directement nommés, du moins adoubés par le président du Front National, par Jean-Marie Le Pen. Alors voilà un garçon, Louis Alliot, qui est certainement très brillamment intelligent, puisque Le Pen l'a pris comme secrétaire général du mouvement, et qui nous dit que la moitié des gens qui avaient été choisis par Le Pen pour occuper des postes de responsables départementaux à la tête des organisations départementales du Front, sont des gens foutres, des saboteurs qu'il faut virer d'urgence et qu'il faut mettre à la retraite. Moi, je serais secrétaire général d'un parti dont le président a 78 ans, il y a des mots que j'éviterais. Mais je suis pas aussi intelligent que Louis Alliot, c'est évident. Et par conséquent, je peux pas me permettre ce genre de plaisanterie. En tout cas, le résultat, on le voit. Pour la première fois... une fois purgé de tous ces salopards, de tous ces imbéciles d'extrême droite, cathos tradis, pagano tradis et autres secrétaires généraux et fédéraux et départementaux, le Front National a parfaitement réussi, puisque Marine Le Pen est candidate au deuxième tour de la législative à Hénin-Beaumont avec 24% des voix.
Presque aussi bien que ses 32% à Lens en 2002.
Donc,
je peux compléter, Serge. Je disais la semaine dernière, en considérant le programme de Jean-Marie Le Pen qu'on trimbalait dans 3 régions par jour en avion, ce qui, même pour un homme de 78 ans en parfaite santé, était un peu violent, que je soupçonnais que certains étaient pressés de lui succéder. Et donc je pense que c'est peut-être pas par hasard si M. Alliot parle avec tant d'insistance de mise à la retraite. D'autant plus que notre ami Bruno Larubière, je pense que vous le connaissez encore mieux que moi, d'ailleurs je cite son nom avec émotion parce que c'est lui qui m'a introduit dans ce studio auprès de vous il y a maintenant plus de 20 ans.
Il aura fait au moins une chose bien dans sa vie.
Merci. Puis à l'occasion du numéro 1 du choc du mois. Qu'il a relancé récemment en oubliant de me prévenir, en oubliant de prévenir François Brignot et quelques autres. Bruno Larubière, donc, est rédac chef du Choc du Mois. Je crois, il signe pas de son nom, mais je crois qu'il collabore également à Minute, deux organes qui ont manifesté beaucoup de sympathie depuis le début, depuis leur début, à Marine Le Pen et à son orientation. Et aujourd'hui, ou plus exactement le 3 juin dernier, sur Canal+, Bruno Larubière fait la déclaration suivante. Les 79 ans, je cite, les 79 ans de Jean-Marie Le Pen sont un handicap. L'image qu'il a est un handicap. Sa difficulté à renouveler le discours est un handicap. Il n'est plus possible de continuer avec lui et d'envisager, ce qui paraît totalement dément à tout le monde, qu'il soit candidat en 2012. Alors Serge, est-ce que c'est vraiment par hasard que M. Alliot parle de mise à la retraite avec cette insistance? Est-ce que c'est vraiment une maladresse?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de M. Alliot, je ne suis pas non plus dans la tête de M. Larubière, mais effectivement je trouve que comme déclaration de la part de des supporters inconditionnels ou peu s'en faut de Marine Le Pen, c'est un petit peu aventureux. Je ne sais pas, c'est pas même... Je ne voudrais pas dire ça à propos de Larubière, que je connais depuis très longtemps et qui est un garçon d'une intelligence supérieure et d'un très grand talent, et c'est-à-dire qui mesure ses propos. Parce que quand il écrit, c'est pas n'importe quoi. Il est intelligent et talentueux. Et c'est curieux qu'il se soit laissé aller à ce genre de propos.
Alors, il faut ajouter que moi j'ai pas la télé et je regarderais encore moins Canal+ si je l'avais. Il faut ajouter que ces propos sont revendiqués puisqu'ils sont reproduits dans Minute. Donc là encore, on peut pas parler d'accident, de dérapage, de manipulation.
Mais c'est curieux parce que enfin c'est amusant, je m'aperçois en vous entendant que je suis à peu près à la moitié de entre Jean-Marie et Marine, c'est-à-dire que j'ai 19 ans. de moins que Jean-Marie et 20 ans de plus que Marine. C'est pas... cette petite année de différence compte beaucoup. Je me sens quand même beaucoup plus proche de
Le Pen. Ce n'est pas tellement l'âge qui compte, mais la forme physique. Quand on parle de l'âge de Le Pen, il ne faut pas oublier que Clémenceau, dans une époque des plus dramatiques de l'histoire de France en 14-18, portait la France sur ses épaules et il avait 80 ans.
Oui, non, mais je n'ai jamais considéré que l'âge
je ne pense pas que Le Pen soit... Deuxièmement, on peut dire que Sarkozy est passé avec toutes les idées, avec tout le langage de Le Pen, moyennant quoi c'est peut-être pas tellement un poids, alors qu'en revanche, au moment même où nos adversaires prenaient la totalité de nos idées et passaient avec, c'est le moment où Marine, fort intelligemment, elle prenait du recul avec ses idées. Ce qui amène quand même à se poser des questions. Comble de la sottise ou trahison?
En trahison, non, j'y crois pas.
Alors, sottise
maximum. Ce matin, elle a fait litière dans l'émission de Griotret d'une accusation qui, effectivement, m'était revenue aux oreilles. Et je suis bien content qu'elle soit infondée. Parce que l'UMP opposait à Marine à Hénin-Beaumont un monsieur qui s'appelle Nasreddine Ramdani, qui est un Français comme un autre.
Mais totalement inconnu dans la circonscription.
Totalement inconnu, oui. Mais alors donc certains disaient, bah évidemment il y a eu un accord secret entre Marine et l'UMP pour lui opposer un candidat dont on était sûr qu'il ne ferait pas l'unanimité. En pays minier, je vois pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine en pays minier, comme il y a beaucoup de Polonais, enfin de Français d'origine polonaise. En tout cas, elle a fait litière de ça en disant non. Alors que Je n'envisageais même pas de me présenter à cet endroit-là, puisque personne ne m'en avait parlé. Monsieur Ramdani avait déjà été désigné comme candidat il y a plus de six mois avant l'élection. Donc voilà, ça ne tient pas debout, il faut s'enlever ça de la tête. Ça serait évidemment commode de le penser, mais ça ne tient pas debout. Voilà. Et j'ai fait une autre remarque ce matin en écoutant l'émission de Griotret, c'est que sur le mondialisme, sur le travail du mondialisme, la population du pays minier est à forte densité d'origine polonaise. Tout le monde sait ça. Ce qui veut dire, ce sont des gens qui sont venus, disons, juste avant-guerre, et puis l'après-guerre aussi, pour travailler dans les mines. Des Polonais qui sont venus et qui sont devenus français complètement. Et maintenant, on prend les industries du pays minier et on les exporte en Pologne. C'est-à-dire qu'on a commencé par assassiner la Pologne en prenant sa population active pour l'importer en France. Et un demi-siècle ou trois quarts de siècle plus tard, on prend la richesse qui a été construite par les Polonais en France, et on la renvoie en Pologne en laissant les Polonais ou les descendants de Polonais crever de chômage et de faim en France. Si on voit pas la patte griffue du mondialisme, je ne sais pas ce qu'on verra. Voilà diverses constatations que je voulais livrer à votre méditation. Il y a encore d'autres engueulades, Victoria?
Non, c'est pas des engueulades.
Non,
quelqu'un vous confirme.
C'est moins rigolo.
Si Marine Le Pen arrive, c'est grâce à l'UMP qui a présenté un candidat issu de l'immigration et nos ennemis font tout pour que Marine dirige le front.
Non, en tout cas,
on vient d'y répondre, ça. Mais maintenant, répondu, je pense qu'effectivement, nos ennemis ont tout avantage à avoir Marine Le Pen au front. La preuve est là, d'ailleurs, quand on résume ça.
C'est pas sûr qu'ils aient avantage. C'est pas sûr. Ils préfèrent avoir quelqu'un d'un peu dur, parce qu'on peut toujours. Enfin, je sais pas. Ça, c'est leur calcul. Moi, c'est pas les miens. En tout cas, pour l'histoire du candidat opposé à Marine, non, ça tient pas debout. Les dates démentent absolument cette hypothèse.
Alors, on revient sur, puisqu'on est en train de revenir en arrière, à propos de la vodka. La Grey Goose, l'oiseau, loi grise, est la meilleure, pardon, et elle est fabriquée.
Elle l'a goûtée avant de s'exprimer.
J'allais pas en parler sans en avoir goûté. Et fabriquée en Vendée sous licence américaine. Voilà.
Une vodka fabriquée en Vendée sous licence américaine.
Oui, voilà.
Je confirme.
Et elle s'appelle loi grise.
Il y a énormément de, on va pas dire des,
je voulais pas le
des
dire,
vodkas mais... de contrebande, mais il y a une vodka fabriquée en France. Oui. Je pense que Smirnoff appartient au groupe Pernod Ricard.
Ah oui, non, mais il y a,
que ça lui appartient. Non, il y a des vodkas. À l'origine, c'était Smirnoff, c'était une, oui.
Ah, nous avons un spécialiste.
Laissez parler l'expert. Non, laissez pas parler l'expert. Il faut pas tout mélanger. Il y a évidemment la vodka suédoise, absolue. Il y a des vodkas françaises comme Smirnoff et d'autres en pagaille. Et il y a, par ailleurs, des vodkas russes qui sont fabriqués en France et réexpédiés en Russie pour y être embouteillés, de façon à être présentés comme des vodkas russes, ça, il faut le dire. Et il faut ajouter les circuits commerciaux.
Tu prends un coup des oligarques, ça.
Les circuits commerciaux. Pernod Ricard a l'exclusivité mondiale hors Russie de la distribution de la vodka ultra-russe Stolichnaya. Et ils sont en train de négocier depuis plus d'un an pour avoir la distribution en Russie.
Moi, je m'en fous. Quand je buvais, je fabriquais ma vodka moi-même avec de l'alcool à 90. Et donc, ça m'intéresse pas, votre histoire.
Et j'ajoute, pour l'édification de Jean-Paul Leperlier, que, bien entendu, la russe, notamment fabriquée en Vendée, est, bien entendu, la meilleure au monde et la seule authentique. Hein, quand tu as mettre de l'herbe ou du papier toilette dedans, bon, là, j'avoue que si quand on fait ça, on mérite pas d'être russe, comme disait mon père.
Voilà. D'autres messages?
À Serge de Beckett, justement, si Marine Le Pen invitait à midi pour rétablir l'équilibre, je suggère que vous invitiez Bruno Gollnisch, qui, pour être silencieux, n'en a pas moins beaucoup de choses à dire.
Ben, ça, s'il veut venir, il est mon invité quand il veut, mais c'est à lui de voir s'il a envie de s'exprimer en ce moment. Je ne sais pas, moi, je ne vais même pas poser la question. D'abord,
Cachait le 1er mai. Il était invisible en tête du cortège du 1er mai. Le Libre Journal, exclusivité du Libre Journal imprimé, l'a découvert dans la foule, photo à l'appui. Alors peut-être se cache-t-il des médias et que c'est pour ça qu'on ne voit et qu'on entend qu'il y a Lio Marine à la Libération.
Il faut comprendre aussi pourquoi il ne tient pas du tout à être médiatisé à l'extrême, puisque les médias ne l'utilisent que pour essayer d'entretenir l'idée qu'il y a au front, une espèce de guérilla permanente entre les dirigeants et tout. Bon, alors, donc lui, il tient pas du tout à jouer ce jeu-là. Donc il ne cherche pas les médias. Voilà.
Il a tout de même déclaré récemment, sans langue de bois a-t-il précisé, que le moment venu, il serait candidat à la succession.
Ça, tout le monde le sait, c'est absolument la moindre des choses d'ailleurs.
Espérons qu'il n'aille pas réintégrer les secrétaires fédéraux à mauvais esprit, les païens et les catholiques. Ce serait grave.
On n'est pas en Corée du Nord quand même.
Si Le Pen voulait du pouvoir, ça se saurait. Ou alors prouver le contraire.
Je crois que franchement, il s'est présenté à toutes les élections depuis 30 ans. Il a créé un parti qui était un parti d'accession au pouvoir par les voies démocratiques. On ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir du pouvoir. Il a simplement une conception démocratique du pouvoir. Alors, évidemment, quand on est démocrate et qu'on traîne derrière soi le boulet de l'extrême droite pendant 30 ans... Si ça complique l'existence, c'est pas facile. Hein. Ça serait tellement plus intéressant d'avoir la montgolfière de la démocratie. Regardez Bayrou, par exemple. Bayrou, on peut pas dire que lui, il a traîné le boulet de l'extrême droite. Il a fabriqué un ballon dirigeable avec du gaz de droite et du gaz de gauche. Et ça a volé très très bien pour les présidentielles. Après, ça a un peu mis en piqué. Quoi.
Pas beaucoup de Chinois en France. Paraphrasant Jean-Marie Le Pen, je vous dirais, vu la démographie et le nombre d'arrivées en France, ils seront très nombreux prochainement.
Oui, d'accord, mais bon, c'est pas gênant qu'ils soient nombreux, moi, ça me gêne pas, les Chinois.
Je crois qu'ils sont 500 000, quelque chose comme ça, pour l'instant.
Et puis, hier soir, sur Arte, on a vu une émission sur les populistes en Europe.
On va dîner chinois ou chez moi ? Pardon, excusez-moi.
Dont les deux frères jumeaux qui dirigent la Pologne. Ouais. C'était vraiment une émission contre les droites nationales en Europe. Ben l'avez-vous oui. vu ? Qu'en non. pensez-vous ?
Non, parce que vous savez, moi j'ai un pif assez raffiné, quand même, pas assez raffiné, assez devinant. Et quand j'ai vu qu'Arte consacrait une émission aux populistes, je me suis dit, ah, on va encore dire du mal de nous.
Alors je parie que vous avez regardé les vacances du Führer sur TF1.
Ah non, j'ai raté ça, je le regrette. J'ai regardé en revanche, tiens, je voulais en parler, une petite merveille, alors là, vraiment, c'est Le Temps des Secrets. D'après le livre de Pagnol, mais vous savez qu'il y avait eu deux films qui avaient été réalisés par... Comment s'appelle-t-il
Berry
Non, pas Berry. Produit par Berry, mais réalisé par ce merveilleux acteur qui est mort enfin, peu importe. Donc, il y avait la gloire de mon père et le château de ma mère.
Oui.
Mais il avait... Rémy, non.
Non, c'est tout récent. Enfin, c'est pas tout récent, il y a 20 ans, quoi, 19 ans. Oui. Et qui était une réussite parfaite, moi j'ai trouvé, bon. Et puis là, on annonçait le temps des secrets que ce réalisateur n'avait pas fait, lui. Et je me suis dit, ça arrive à sortir de télévision avec de nouveaux acteurs et tout, c'est pas possible. Or, c'est une révélation. D'abord parce qu'on a l'impression que c'est exactement dans la même ligne. La lumière est la même. L'ambiance est exactement la même. Et fabuleuse, les comédiens, qui ne sont évidemment pas les comédiens d'origine, puisque ils ont vieilli.
Pas Emmanuel Béart, quand même.
Non, il n'y avait pas Emmanuel Béart. Yves Robert, le réalisateur, voilà, merci. Ouais, merci Jean-Charles.
Excellente réponse de Serge de Becquet.
Qui reviendra en 25e semaine.
Eh bien, donc, le successeur d'Yves Robert, dont malheureusement je n'ai pas gardé le nom en mémoire, il a réussi quelque chose qu'on aurait pu considérer comme un pastiche, mais c'est tellement bien fait. Et les comédiens sont tellement choisis avec intelligence et comment dirais-je, sentiment, avec affection. C'est une merveille. Alors, c'est ce soir à 8h50, la deuxième partie. Donc, je vous conseille de nous abandonner à 8h50 et d'aller sur la 2. Aller sur la 2 pour voir ça. C'est vraiment très, 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 très réussi. Voilà. Quoi d'autre ?
On vous disait à propos de l'annonce. Donc un auditeur proposait la variante suivante. La libre radio pauvre du pays réel.
Très bien, j'adhère. Plus c'est court, mieux ça vaut.
Et puis autrement, ça arrive. Alors, ras le front, parlez-nous d'autre chose que du Front National. Et pourtant, j'ai voté Jean-Marie Letour au premier tour en avril.
Jean-Marie Letour au premier tour.
Oui, c'est ça.
N'importe quoi.
Je cotise, mais je vais cesser. Ah. Je vais quitter le Front. Marine Le Pen... Faux, la, Fout le désordre. Oh, comment qu'il cause. Marine Le Pen met le désordre. Elle va avec ces gens qui n'ont rien à voir avec le front. Amitié à l'équipe de Serge Le Bécquetch.
Mais attendez, vous cotisez où? Alors, si vous arrêtez de cotiser à la radio parce que vous êtes fâché contre Marine Le Pen, vous avez tout faux, monsieur, hein, je vous le dis. Non. Continuez à cotiser à Radio Courtoisie. Pour le Front National, vous faites ce que vous voulez, mais Radio
Courtoisie. Et abonnez-vous au Libre Journal avec les Dienguy, le fric libéré.
Abonné de la première heure au Libre Journal, j'ai toujours voté Le Pen au premier et deuxième tour.
Comme moi.
Y compris ce dernier. Vous ne m'ôterez pas de l'idée que l'âge du capitaine, enfin de Jean-Marie Le Pen, quel que soit son incontestable talent, constitue un handicap, surtout en cette période de renouvellement des cadres.
Signé Bruno Larubière.
On dit ça tout le temps. On dit, alors, Le Pen, il est trop vieux. Ferré, il était trop vieux pour Radio Courtoisie. Médard, il est trop vieux pour...
Philippe Bouvard, il fallait le virer
de RTL. On l'avait viré. Ils étaient obligés de le rappeler Dardard parce que là, l'écoute se viandait et tout. Non, là, je n'ai rien à voir à l'affaire. Rien. Vraiment, je crois pas. Ce qu'il y a à voir, c'est quand les gens les cerveaux se calcifient. Ça peut arriver. Mais il y a des cerveaux calcifiés à 20 ans.
C'est tout pour le moment. Alors, voilà. Je veux bien vous lire les annonces, maintenant.
Bon, eh ben, lisez les annonces, et puis après, on donnera la parole à François Robot, qui doit se sauver pour aller, je suppose, déguster les...
Commencer le test de différentes vodkas. Oui, c'est
Alors, Monsieur Michel de Poncin prononcera une conférence sur le thème « Le coût financier de l'avortement » le jeudi 14 juin à 19h30, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. La soirée sera comme d'habitude suivie d'un buffet et permettra de parler avec le conférencier. À l'issue de la conférence, Michel de Poncin dédicacera ses ouvrages. Participation aux frais 8 euros, étudiants et chômeurs 4 euros.
J'allais être méchant parce que j'allais dire, je comprends, chaque fois que Poncin fait une conférence, elles sont d'ailleurs très très intéressantes, il y a un pot après, enfin un petit buffet, et je me disais, comme il reproche toujours aux...
Parlottes et fêtes,
voilà exactement. Alors je me disais, mais qui paye? Ben ça y est, j'ai la réponse, 8 euros. Donc c'est ceux qui mangent qui payent. Pour une fois, c'est pas ceux qui ne payent pas qui mangent.
Samedi prochain, 16 juin, de 15h à 18h30, Maxime Lenôtre dédicacera Mahomet, fondateur de l'islam, à la librairie France Livre 6, rue du Petit Pont, Paris 5e.
Eh ben, on l'attend, il devrait venir nous voir. Là.
Pas de buffet de Gaston Lenôtre à l'issue de cette dédicace.
Elle n'est pas annoncée. Bon. Alexandre Simoneau, candidat Front National aux élections municipales, futur candidat Front National aux élections municipales de 2008 à Taverny, nous rappelle, le 2 décembre dernier, Maurice Boscavert, maire socialo-communiste de Taverny, érigeait sur l'obélisque de cette ville un préservatif géant de 11 mètres de hauteur avec les 9000 euros du contribuable. Pour avoir osé déchirer cette horreur qui constituait, selon moi, un attentat à la pudeur, une atteinte aux bonnes mœurs et un objet de scandale pour les enfants, je fus arrêté et maintenu 20 heures en garde à vue. Accusé de dégradation d'un bien public, je comparaîtrai le jeudi 21 juin à 10h30 devant la 7e chambre 4 du tribunal de grande instance de Pontoise, 3 rue Victor Hugo, à Pontoise. Je vous demande de venir en grand nombre me soutenir dans mon combat pour avoir simplement voulu défendre et protéger les enfants, les valeurs familiales et la dignité de Taverny.
Et la simple vraisemblance, parce que je ne connais pas personnellement M. Boscavert, maire social ou communiste de ce bled, mais enfin, j'ai l'impression qu'il se vante un petit peu avec son capot en gel de 11 mètres.
Hein. Tu te vantes. Ouais. Je suis sûr que l'évêque de Pontoise, dont nous lisions tout à l'heure une lettre pastorale particulièrement édifiante, va manifester son soutien à notre camarade.
Non, mais comme il est pour l'entrée... Bon, enfin, bref. Quoi d'autre?
C'est à Taverny que, dans les sous-sols, se tient le PC de la force stratégique française.
Tout s'explique.
Préserve la France des attaques de l'étranger.
Laissez-la parler.
Serge, je préférerais que ce soit vous.
Qui lui sied.
Encore une horreur.
Non, c'est pas des horreurs, mais c'est tellement rédigé en anglais que j'ai peur de ne pas savoir traduire et d'être obligé de payer.
En français.
Ça fait que 4 pages.
Il y a des quantités industrielles de petits mots en anglais.
Bon, on verra ça plus tard.
Très bien, excellente initiative.
Quand est-ce que vous la virez, celle-là ? Elle arrive saoule.
Elle est arrivée à l'été à jeun. C'est après, quand elle a signé votre cas,
rien que de parler de vodka, ça m'a saoulé la figure. 21 juin, notre fête de la musique. C'est le cercle de Renaissance. Soirée récréative du cercle Renaissance, ouverte aux auditeurs de Radio Courtoisie. Dîner amical, accompagné de chants traditionnels sur le thème « La vigne et le vin ». Avec participation du chœur Montjoie Saint-Denis, le jeudi.
Je vous conseille de ne pas arriver à la fin.
Avec ou sans vodka. Chœur Montjoie Saint-Denis, disais-je, le jeudi 21 juin, de 19h30 à 23h, à proximité du siège du Cercle Renaissance, au local situé dans la cour du 134 rue de Tocqueville, dans le 17e. Le chœur Montjoie Saint-Denis symbolise par les chants et par les costumes la grande tradition française, on chantera et l'on dansera, qu'on se le dise.
C'est vrai.
Tenue de ville. Réservation préalable obligatoire. Alors, je ne sais pas où il faut téléphoner, parce que ça doit être écrit, mais je ne sais pas où.
Excellent.
Ah, si, voilà. Téléphone 01 42 27 48 22.
Très bien. C'est tout ?
Ben, non, il y en a encore. Oh, le 22 juin, c'est dans longtemps.
Ben, ça n'empêche pas de le lire, je vais le lire moi-même, ça va faire plaisir à Goffman. L'Institut de théologie orthodoxe de Saint-Serge de Paris vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la cérémonie de remise du diplôme de docteur honoris causa de son éminence le métropolite Georges du Mont-Liban, le vendredi 22 juin 2007 à 19h dans les locaux 93 rue de Crimée, 75 019 Paris, métro Lomière.
Allez-y un quart d'heure à l'avance et visitez la délicieuse petite église en bois Saint-Serge de Radionevski. Voilà. C'est vraiment un poème, on se croirait transporté au vieux pays.
Absolument, oui, c'est exactement ça. Voilà, donc à cette occasion, Monseigneur Georges prononcera une allocation, décidément, moi aussi je m'y mets.
Tu veux des allocations?
Arrêtez.
Une allocution sur la nature de l'islam. La cérémonie sera précédée des vêpres en l'église Saint-Serge à 18h et suivie d'un vin d'honneur. Voilà, alors si vous voulez assister à cette cérémonie, et puis assister à un office orthodoxe, ce qui est vraiment...
Il faut voir ça une fois dans sa vie.
Au moins une fois dans sa vie.
Alors, voilà. À noter sur vos almanachs et autres éphémérides, la parole est à la musique. Soirée musicale et poétique proposée par Anne Brassier, Didier Rochard et Yves Tarantic. Moyen technique, Philippe Martineau. Le vendredi 22 juin à 20h. Avec Jean-Philippe Azéma, comédien, Daniel Carton, chanteuse, comédienne, Julie Desmet, comédienne, Pierre Lordonnois, auteur, compositeur, interprète, Benoît Vota, accordéoniste. Programme varié, poésie, chansons, accordéon, guitare, orgue de Barbarie. Ça se passe à l'Université internationale de Paris, fondation Deutsch de la Meurthe. Entrée par le 37, boulevard Jourdan, Paris 14e. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
Entrée gratuite, sortie payante.
Et puis, tiens, le catalogue des nuisibles, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ce livre.
C'est vrai?
Non. Non, jamais.
Mais envoyez, Victoria, envoyez 24 euros franco à l'ordre de Serge de Beketch, 4 places France Liszt, 75 010 Paris, et vous recevrez cet excellent livre que toute la presse acclame.
Dites donc, faudrait peut-être un peu recorder vos violons, parce que vous écrivez dans le libre journal 25 euros port compris.
Ah, errare.
Tout augmente.
Tout augmente d'un jour à l'autre. Anne Brassier et la mairie d'Orange, c'est pas la même chose, non. C'est vous invite à lire Sous les Oliviers le dimanche 8 juillet. De 16 à 22 heures, c'est dans longtemps, hein, 8 juillet, c'est pour noter, sur la colline d'Orange, dans le Vaucluse, il y aura plein de gens, voilà. Dont Serge de Beketch, Patrick Goffman, Jean Madiran, beaucoup, Emmanuel Ratier, ça finit, bon, et puis vous trouverez aussi des revues littéraires et historiques.
Voilà, avis à nos auditeurs du Sud-Est. Faites-le savoir à vos amis et parents du Sud-Est qui n'auraient pas encore radiocourtoisie.net ou...
Et à ceux qui veulent se promener.
Voilà, on a lu tous les messages.
Non, les nouveaux messages, on les lira tout à l'heure, après.
François, de quoi parler? Oui, ben voilà, allez-y, je vous donne la parole.
De cuisine, Serge. N'ayons pas peur des mots, nous allons parler cuisine. Voilà, je vais revenir sur les diplômes. La profession est en crise, on a beaucoup de mal à recruter des apprentis. Il y a la journée continue dans certains établissements, on l'avait déjà évoqué, ce qui arrange beaucoup de monde. Autrement, il y a la coupure. Et on fait poursuivre des études à des jeunes qui, éventuellement, n'en ont pas toujours besoin. On va du CAP au bac pro et ainsi de suite.
Je peux vous interrompre une seconde à propos de coupure? J'ai vu de mes yeux, sur un restaurant, la fiche suivante, fermée pendant l'heure du déjeuner.
Tout est possible. Alors, Paul Bocuse, qui est le pape de Collonges, qui est incontestablement le cuisinier le plus talentueux, un des plus talentueux, mais de toute façon le plus connu, lui, il a résumé le diplôme pour les gamins, étant donné que lui-même revendique d'avoir effectué son apprentissage chez la célèbre mère Brasier, au col de la Luère, où il allait à bicyclette, et il a pris quelques coups de pied dans le derrière, il a fait beaucoup de vaisselle, et il déclare à tous les jeunes qui veulent faire son métier, et qui lui posent la question maître, puisqu'on l'appelle maître en toute amitié, sans aucune arrière-pensée, et il leur répond, petit, moi j'ai mes deux bacs, eau chaude, eau froide. Alors nous allons enchaîner avec le classement des cuisiniers, parce que les cuisiniers, ils sont toujours sous les feux de la rampe, je vais vous lire, et j'ai un peu de retard, Le Figaro, cet excellent quotidien du matin, avec un journal anglais qui s'appelle The Restaurant. Je sonne moi-même, comme ça, ça évitera à mes amis de le faire.
Non, c'est des sous qu'on met d'habitude.
Eh bien, je vais les mettre après. Attendez, ne m'interrompez pas, l'heure est grave. Donc, le classement de ces journaux, là, j'ai perdu complètement le fil de ma pensée. C'est assez extraordinaire parce que il y a à la première place l'Espagnol Ferran Adrià, qui exerce à Cadaqués. Cadaqués célèbre.
La ville de Dali. Le village célèbre, de Dali.
Dali. Le second est l'anglais Eston Blumenthal, qui fait de la cuisine dite moléculaire d'avant-garde.
Comme l'espagnol.
Ça chauffe, ça est exactement dans le même style que l'espagnol. Et enfin, nous trouvons le troisième, qui est Pierre Gagnère, un cuisinier français qui a démarré là où il y a une célèbre équipe de football à Saint-Étienne et qui maintenant exerce à Paris. Voilà, je rembobine et je vous donne le classement de l'année précédente, en 2006. Classement organisé, je vous le rappelle, ce n'est pas de la pub, par le Figaro et par la revue The Restaurant. Premier, Ferran Adrià. Deuxième, Eston Blumenthal. Troisième, Pierre Gagnère. Ouais. On prend les mêmes et peut-être que l'on recommence. Ils auraient dû les passer au shaker ou au mixeur.
Mais les deux premiers, je ne connais pas, mais enfin, je sais que l'espagnol, c'est il faut réserver 3 ans à l'avance.
Voilà. C'est un peu du délire. Hein.
Je signale que le Libre Journal imprimé a publié un reportage chez cet espagnol déjanté de notre divin marquis, qui porte un titre espagnol et qui lui n'a pas attendu 3 ans, qui a été conduit là-bas en avion, tapis rouge.
Il est grand d'Espagne, il est même rentré à cheval dans le restaurant.
Mais
Gagnère, c'est justifié quand même, non?
Gagnère, il est un peu dans la cuisine futuriste,
avec un
physico-chimiste qui s'appelle Hervétis, et je leur souhaite sincèrement de tout cœur qu'il ne fasse pas exploser la cuisine, parce que à ce moment-là, les assurances ne couvriront absolument pas les dégâts. On va parler de cuisinier un peu plus sérieux. Il existe la revue Cuisine et Vin de France, qui fête ses 3 fois 20 ans. Elle avait été créée, cette revue, par Kurnonski, car à l'époque, c'était très chic de prendre un pseudonyme russe, tout en buvant de la vodka. Non, il s'appelait Edmond Saillant. Il a choisi comme pseudonyme Kurnonski, parce que c'était russe à l'époque déjà.
En réalité, c'est un pseudonyme latin. Parce qu'on lui dit, mais il faut trouver un pseudonyme russe.
Oui.
Effectivement, c'était à la mode. Et alors, quelqu'un lui dit... Pourquoi pas ski, Kurnonski.
Ah d'accord.
Ah.
Et voilà. Alors je cite Kurnonski dans le texte, et c'est toujours valable et encore plus d'actualité, c'est que quand il allait au restaurant, il avait tendance un peu à s'endormir à table, surtout que le repas était bien arrosé. Mais ça.
Et un jour il s'est endormi définitivement à table parce qu'il est mort à table.
Non, il n'est pas mort à table, il s'est défenestré, mais ça c'est une autre histoire.
Ah bon, j'ai lu pourtant la mort de Kurnonski à table.
Il y a deux versions, il est tombé du premier étage de l'appartement l'appartement qu'il occupait, Square Laborde.
Il est peut-être monté sur la table pour se...
Je ne sais pas.
Non, je n'ai pas mon lui,
mais je vais vérifier.
Il n'y a pas quelqu'un chez nous. Franchement, la mort de Kurdonski à
dès
table.
Notre prochain rendez-vous.
Et avec des détails scabreux en plus. Non, non, vraiment.
Ah non, oui.
Ah non, si, si. Bah non, c'est non, pas non, possible. Pas. Alors, donc...
Et pourquoi pas en ski?
Parmi tous ces aphorismes, et ça reste toujours d'actualité, j'insiste beaucoup, il déclarait « Je ne suis pas venu ici pour manger les rideaux ». Alors que tous actuellement investissent lourdement en empruntant pour faire des décors futuristes qui plaisent beaucoup aux critiques gastronomiques. Mes très chers confrères, si vous m'entendez, aucune attaque contre vous. Je vais vous parler de gens très sérieux. Ce sont les maîtres cuisiniers de France. C'est une association qui regroupe en son sein environ 250 cuisiniers et qui, chaque année, édite un guide. Le guide 2007 est préfacé par Bernard Laporte. Bernard Laporte, je crois que c'est l'entraîneur du 15 de France. D'un côté, le 15 de France gagne. Quand il va au bout du monde, il perd. Mais enfin, la Coupe du Monde va se dérouler dans notre beau pays. Ce petit guide très bien fait, illustré, avec des commentaires, des numéros de téléphone, des renseignements très précieux, est offert généreusement par tous les adhérents. Et il est tiré à 200 000 exemplaires. Alors, parmi eux, quelques stars. On a déjà parlé de Monsieur Paul Bocuse. Il y a les nouveaux jeunes 3 étoiles. Enfin, il y a vraiment une très, très belle brochette de cuisiniers français et même de cuisiniers qui exercent à l'étranger. Donc, c'est le guide des maîtres cuisiniers de France. Je crois que je dois avoir un numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez vous le procurer plus facilement. C'est le 01 45 26 99 39. L'adresse, c'est 40 rue Blanche, à Paris, dans le 9e. Donc, ça, vraiment, c'est un instrument très agréable.
Ça, c'est totalement désintéressé, en plus.
Merci. Ah ben, c'est gratuit.
C'est eux qui le font.
Peut-on intervenir une seconde pour parler d'un restaurant, si c'est pas... Ouais. Je suis allé récemment au Train Bleu. J'y allais, vous connaissez le Train Bleu. J'y allais régulièrement auparavant. Je crois que c'est un des plus beaux lieux parisiens, quand même. Quand on parle de décor, celui-là est réel. Et alors, ce qui est extraordinaire...
C'est à la Gare de Lyon,
à la Gare de Lyon, tout à fait. Gare de Lyon, le Train Bleu. Mais le décor, dans les salons, les fauteuils Chesterfield sont encore d'époque. Vraiment. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve dans les assiettes une cuisine d'époque, avec du bœuf braisé, des légumes entiers cuits à la vapeur. Peur, et j'y suis retourné avec émotion. Je me suis dit, ça n'a pas baissé. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures tables qui soit.
C'est une très bonne table. Ça a été repris par un groupe étranger. Je crois que ce sont des Anglais. Mais ils ont su conserver l'esprit de cette cuisine ancienne.
Je suis très frappé par ce que vous dites, François Robot, parce que je suis allé voir par accident un film idiot qui s'appelle Les Vacances de Monsieur Bean. Et une des premières scènes se déroule précisément au Train Bleu. J'étais très surpris. Et je comprends à l'instant que c'était... encore une opération publicitaire clandestine dans un film.
Je n'ai pas vu ce film avec M. Bean, mais toutes les voitures du film sont des Austin, voitures anglaises. Voilà, la boucle est bouclée. Alors là, j'hésite. Je voulais quand même vous faire partager l'émotion que j'ai eue en recevant ce communiqué de presse. On peut citer des marques.
Oui, Dom
Pérignon, un célèbre moine abbé, qui a inventé la liqueur qui a permis au champagne, qui était un vin tranquille, de devenir un vin effervescent. Donc, les commerciaux de la maison Dom Pérignon proposent une expérience Dom Pérignon millésime 1999. D'ailleurs, on ne dit plus millésime, on dit vintage. J'ai sonné avant que l'émotion vous envahisse. Donc, il propose de goûter 7 fois, à volonté bien sûr, du Dom Pérignon 99 avec 7 plats préparés par la maison Potel et Chabot. On peut choisir un lieu exclusif et entièrement privatisé au cœur de Paris. Donc Serge, dès que vous voudrez nous inviter, ne manquez pas de le faire. Je vais quand même vous donner la composition du menu parce qu'elle est particulièrement intéressante.
Et le prix au passage.
Non, le prix...
C'est spécial
pour vous. Je voudrais pas vous couper l'appétit. Donc je vous donne le prix d'abord, le menu d'abord. Il y a un peu de caviar, présenté sous deux formes.
Ça commence
mal. Il y a
mal.
Également... 3 métamorphoses de l'iode avec un dashi. Le dashi, c'est une algue japonaise avec des palourdes. Il y a des petites huîtres qui viennent d'Irlande. Il y a un risotto à l'encre de sèche. Est-ce que ça vous fait saliver?
Ça, c'est bon.
Ensuite, nous passerons et poursuivre avec une soupe de langoustine thaï à la feuille de citronnier au coco. Ensuite, nous aurons de la grenadelle. Alors, la grenadelle, je ne savais pas, mais c'est quand même expliqué.
C'est un poisson,
c'est une liane grimpante des cordillères de l'Amérique latine.
Oh bah.
Les pétales sont des pétales de fleurs blanches, parfois rosées, surmontées d'un filament bleu. C'est un fruit ovale jaune-orangé dont les graines et la chair gélatineuse se mêlent, dégageant une saveur délicieusement acidulée. Ensuite, nous aurons droit à du culatello. Culatello, ça vient d'Italie, c'est un jambon de la région de Parme qui est assez exceptionnel. J'ai eu l'occasion de le déguster, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, nous allons passer au mollet. Le mollet, c'est du chocolat. Merci à nos amis aztèques d'avoir découvert ce chocolat. Alors, il y aura mollet en mode mineur avec de la langoustine, mollet en mode majeur avec un pigeon, magnifique pigeon, tendre, enfin, ceux qui n'aiment pas le pigeon, il n'y aura pas autre chose. Et puis, on arrêtera là, et je vais quand même vous donner le prix pour 12 convives, et oui, car il faut être 12, ça ne devrait pas vous poser de problème, Serge, ni Patrick non plus. Il n'y a aucun souci. Donc, vous vouliez connaître le prix, eh bien, nous sommes confortablement assis et nous allons le rester 40 000 euros.
Bon, pour ce soir, on peut commander?
Eh bien, on peut commander, j'ai le téléphone.
Ah bon, quand même?
Je donne le téléphone?
Oui, bien sûr.
01-53-23-15-38. 01-53-23-15-38.
Mais t'es
j'enchaîne
gratuit,
et
ou...
je terminerai là-dessus. J'ai lu avec beaucoup d'attention le journal, bien sûr, et j'ai vu que Patrick avait décelé une arnaque concernant une... Mais c'est une authentique et belle arnaque, n'ayons pas peur des mots, Patrick, vous allez m'en dire un peu plus, je suis entièrement d'accord avec vous.
Mais dites donc, comment j'étais vous connaissez mon pseudonyme, le pseudonyme que j'emploie pour les articles gastronomiques que je commets?
Il a reconnu le style.
J'ai reconnu votre style, d'une part, et puis je vous ai lu, et vous êtes en photo, en tête de page, l'humeur de Patrick Goffman, arnaque. Donc, alors, cette arnaque, quelques mots, rapidement. C'est à vous, Patrick.
Pardon.
Moi, je n'ai pas encore été arnaqué. Grâce à vous, je ne le serai pas.
Alors, je décris dans cet article du Libre Journal numéro 408, trois arnaques. Donc, je pense que celle qui vous intéresse, c'est l'arnaque la plus stupide.
Ah, la plus stupide. Oui, mais elle est bien élaborée. Celle qui consiste à acheter une carte qui va nous permettre de venir avec nos bouteilles de vin au restaurant.
Bon, alors, je vais lire, ça ira plus vite, ça fait cinq lignes. J'ai préféré ne pas nommer par charité, je le dis franchement. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour être charité. Les restaurants en question, qui sont d'ailleurs d'illustres inconnus. L'arnaque la plus stupide en cours, une trentaine de restaurants parisiens de deuxième zone vous propose, écoutez bien, de fournir vous-même le vin de votre repas contre une cotisation annuelle de 65 euros et un droit de bouchon de 5 euros. J'ai calculé que si vous allez 10 fois par an dans un de ces médiocres restos, il vous en coûtera 11,50 euros pour boire chaque bouteille que vous aurez déjà payée chez Nicolas. Je ne sais pas si je dois lire mon commentaire.
Ah oui, bien sûr.
On se demande combien ce concept inepte, ça rime, a été payé, à quel poivreau de la pub que nous régalerions volontiers de notre pied aux fesses. Vérifiez nous dire sur vinanville.fr.
Voilà, vinanville.fr, et
c'est
puis
génial.
C'est 28 rue Pasquier à Paris dans le 8e.
Et pourquoi on ne fait pas ça pour la nourriture aussi?
Ah ben oui. On pourrait apporter ça. Avant, on pouvait apporter sa gamelle. C'était marqué sur la
ici, façade. On peut apporter son manger.
Oui, ici, on peut apporter son manger. Préférer à chanter, on peut apporter des baisers. Mais
je crois que l'expression droit de bouchon, elle est quand même très ancienne, parce qu'on a toujours demandé une toute petite somme symbolique aux gens qui apportaient leur bouteille.
Ça existe encore, mais c'est très sérieux.
Mais pas de repayer trois fois la bouteille qu'ils ont déjà achetée chez Nicolas.
C'est le concept de l'auberge espagnole.
Pardon. Un peu de
merci
vertia,
François.
Serge.
Dans Victoria Toubu, Serge en est réduit à boire de la Volvic sous vos yeux effarés, chers auditeurs, qui avaient la radio en couleur.
Avec un V comme vodka.
Non, mais c'est une des meilleures eaux, la Volvic, hein, une des plus pures, avec l'eau des Morocous, quand même, il faut le dire.
Bon, eh ben ça va, j'ai des chances d'être sauvé, alors.
Non, mais oui, vraiment.
Merci, François. Eh ben vous êtes libre, donc.
Merci beaucoup.
Procéder à cette dégustation de 12 000 vodkas différentes.
Et alors
les on va écouter un peu de musique, parce qu'on va vraiment changer de sujet. Et...
Vous voulez pas un petit auditeur juste avant?
Si, un petit auditeur avant.
Sur Radio Courtoisie.
Il est dommage que l'émission de Serge de Becketch, trop rare sur nos antennes, se transforme en une interminable bande-annonce. Je reste persuadé qu'il a beaucoup plus de choses intéressantes à nous dire.
Mais,
quelle ingratitude.
Pourquoi ne peut-il pas nous les dire?
Non, mais c'est pas une bande-annonce. Tout simplement, il y a beaucoup d'amis qui n'ont droit à la parole nulle part et qui demandent qu'on cite leurs diverses manifestations. Moi, je me sens un devoir de le faire, c'est tout. Bon. Je pense que... Je sais pas si on préfère que je fasse autre chose, il faut me le dire.
Mais ça, c'est la radio où on amène son émission. Ah, avant, c'est des restaurants où on amène son vin.
Je voilà. suis absolument disposé à changer et à refaire aussi en Quiquinan que je faisais avant. C'est pas, moi, ça
c'était pas un Quiquinan.
Non. Non, mais quoi, vous voulez qu'elle reçoive qui alors?
Je ne sais pas, Voilà. On vous laisse le choix parce que vous aviez beaucoup de talent pour le trouver.
Un mot de commentaire, si vous permettez, Serge. La différence, c'est que nous, on le fait ouvertement. On dit un tel signe à telle librairie. Sur la radio nationale que je paye avec mes impôts et vous aussi, on voit, par exemple, on entend Clémentine Sélarié qui vient vendre son spectacle, mais de façon sournoise, pendant une demi-heure. Et quand elle a fini, elle vend le livre écrit à la main sur la table de la cuisine par son papa, publié à compte d'auteur. Après, elle vend le numéro de la voiture d'occasion de son fils, et ça n'en finit plus. Mais c'est fait de façon sournoise. Nous, on s'interrompt de temps en temps pour effectivement faire la promotion gratuite d'amis qui, comme vous le disiez, ne sont annoncés nulle part ailleurs. Alors, je pense pas, et d'ailleurs c'est pas interminable, ça dure 5 minutes au milieu de l'émission et 5 minutes à la fin. Donc je crois, Serge, que nous devrions...
Ça permet de donner la parole aux auditeurs, notamment à cet auditeur qui fait une remarque dont je suis obligé de saluer le bon sens à propos de la fameuse bombe à hormones. Il dit, cette bombe à hormones qui se veut non violente n'empêchera pourtant pas les trous de balle. Voilà.
Et puis alors, précisez aux éditeurs, demande-t-on, qu'il vaut mieux se passer de la seconde partie du film fait d'après les livres de Pagnol sur son enfance. Celui de ce soir ne vaut pas celui d'hier.
Ah bon ?
Et par ailleurs, ça les oblige à quitter votre émission d'abord, et ensuite, il y a Paul-Marie Couteau.
Ah bah c'est alors...
Signé Paul-Marie Couteau.
Je ne sais pas comment cet auditeur a pu voir la deuxième partie.
Ben, il y a que nous, voyons.
C'était des gens qui sont.
Voyons,
quand même...
Serge de Becquetch, il n'y a que nous qui ne soyons pas invités aux projections de presse.
Bon. Et ah oui, alors... mais il ajoute quand même quelque chose, il faut lire jusqu'au bout.
Paul-Marie Couteau, vous savez, avec...
Moi, je n'ai pas lu, moi.
Ça change. Avec la vodka.
Ça change des discussions de café du commerce de plus en plus habituelles le mercredi à partir de 18h. Voilà, donc écoutez Paul-Marie Couteau, mais à partir de 9h30, voilà. Musique, s'il vous plaît.
Non, Franck. Amical, salut à tous. Cher Goffman, ce n'est pas Saint-Serge de Radonejski, mais simplement Saint-Serge de Radonej.
Mais il a dit Radonej, il n'a pas dit.
Et Smirnov ne fait pas partie du groupe Pernod Ricard, mais de Eublin INC, lui-même partie du groupe IDV. Et je ne peux pas le dire, mais enfin c'est... Je vais pas le dire avec l'accent international distilleur, un de 20 heures, et ce, depuis 1987.
Bon, François Robot bat sa coupe. Il est très gentil, très honnête. Je m'en souvenais pas. C'est lui qui a dit que c'était Pernod Ricard. J'ai simplement dit que c'était une vodka française, comme il l'a dit.
Corrige.
Mais c'est une précision intéressante. Parce qu'on peut pas se saouler non plus avec n'importe qui ou n'importe quoi.
Et enfin, l'auteur du film, donc des films dont vous cherchez l'auteur, c'est Thierry Chabert, auteur des téléfilms actuels sur François. France 2.
Merci. Au revoir François, à bientôt.
Merci.
Voilà. Donc maintenant, musique, Franck, s'il vous plaît.
Musique.
Es Krelex hat jetzt kommt der Sommer. Kommt wieder nach, mach mal kein Kummer. Mit deinem Dingel da, dreh dich mal runter, 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 dreh dich mal rum. Es grelig seit jetzt kommt der Herbst. Kommt wieder Nacht, mach mal kein Schmerz. Mit deinem Dingel da, dreh dich mal runter, 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 dreh dich mal rum. Es grelig seit jetzt kommt der Winter. Kommt wieder Nacht, jetzt geht's dahinter. Mit deinem Dingel da, dreh dich mal runter, 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 dreh dich mal rum. Freilichkeit, Freilichkeit, jetzt kommt der Frühling. Kommt bitte nach, mach mal kein Zwilling. Mit dem Dingel da, dreh dich mal runter, 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 dreh dich mal runter.
Vous écoutez Radio Courtoisie et vous avez bien raison, retournez la télé contre le mur, restez avec nous. Vous écoutez plus précisément le libre journal de Serge Bekech, Patrick Goffman au micro, pour deux minutes consacrées. Alors la bande-annonce interminable continue puisque je vais parler pendant au moins deux minutes du libre journal imprimé. Nous venons de publier le numéro 410, mais je voudrais d'abord dire un mot du numéro 409. Parce que c'est un numéro spécial Sarko, nous lui consacrions 8 pages pleines, sans publicité, sans photo. Un article qui comportait 52 notes, un article donc extrêmement sérieux, mais qui a soulevé du scandale, qui a soulevé même l'indignation, on peut le dire, jusque parmi nos collaborateurs. Il y a dans le numéro suivant une lettre presque violente de Merlin Chazelas. J'avoue que moi-même, cet article, à certains égards, m'a un petit peu choqué. Notre divin marquis a été assailli, dit-il, de protestations. Nous tapons trop fort sur Sarko. Bon, c'est un article, pour dire les choses, appeler les choses par leur nom, assez scandaleux. C'est-à-dire qu'il soulève du scandale et de l'émotion. Je conseille quand même de le consulter, donc de commander ce numéro 409. Le numéro 410 est sorti des presses aujourd'hui même. Nous avons déjà parlé ou fait allusion à l'éditorial de Serge de Bekech sur le triomphe de la ligne Alliomarine au front. Il faut découvrir ses arguments. Nous consacrons 3 pages au vrai Premier ministre qui serait Alain Juppé selon nous. L'article de François Brignot, notre monument historique, consacré à ceux que Sarko a attrapés, ben, il lui faut 3 pages hein, pour en faire la liste, tellement Monsieur Sarkozy a réussi à semer la pagaille dans toute son opposition de l'extrême droite à l'extrême gauche. Notre divin marquis, nous y avons fait allusion tout à l'heure, consacre une pleine page lui aux funérailles de Briali, et là il faut à nouveau souligner, même si on l'a déjà dit tout à l'heure pour les nouveaux auditeurs, que nous n'étions pas, nous, parqués à 100 mètres de l'église Saint-Louis en Lille où avaient lieu ces funérailles de Jean-Claude Briali, comme les représentants de la grosse presse. Nous étions dans l'église et notre reporter, le divin marquis, y a vu des choses qu'il n'a pas peur de dire, lui, y compris, il n'épargne même pas le défunt. C'est vraiment, le libre journal numéro 410 se recommande rien que pour ce reportage qu'on ne pourra trouver nulle part ailleurs. Voilà, journal, ce numéro 410, c'est 5 euros ou un carnet de timbre. Nos amis du site internet francecourtoise.info vous proposent des archives considérables sur plusieurs années, donc à francecourtoise.info. Si on a enfin compris qu'il faut aider notre presse à vous apprendre des choses qui sont dissimulées par ailleurs, à vous les apprendre un an avant, deux ans avant, comme ça arrive régulièrement, on envoie donc 110 euros pour un an à l'ordre de SDB, 4 place France Liste 75-010, Paris. Thank you.
merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle qu'à 21h30, tout à l'heure en direct, vous pourrez suivre le Libre Journal de la Nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau. Et tout de suite, voici la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, toujours en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 juin 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 14 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Voilà, je donne l'exemple, je chinte.
C'est très bien.
Parce que ça fait aussi 140 000 fois qu'on l'entend, ça. C'est pas désagréable, mais...
Un peu, ça va, mais long, ouais. C'est trop long.
Je chinte soir et matin.
Dites-moi, j'ai des petits, deux, trois petits messages encore. Intrigué par la chanson, c'est un dialecte, je voudrais savoir lequel.
C'est un dialecte alsacien, ça, c'est le dialecte. C'est une chanson alsacienne qui s'appelle, je crois, Kleppermann ou quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, c'est Kleppermann, hein. Et c'est fort joli, on en entendra d'autres après.
Et puis,
si vous êtes bien sage. Hein.
Attention, les Alsaciens sont très susceptibles.
Mais je sais pas, mais j'ai pas
très rancunier.
Je passe leur musique et en plus, moi, je suis quand même un tiers de demi-Alsacien. Hein.
Et puis tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de critiques. Alors, il y a eu quand même beaucoup d'accords, puisque d'accord avec vous, c'est plusieurs auditeurs qui ont dit ça tout à l'heure à propos de l'annonce. Il y a des auditeurs qui en ont marre et Serge de Beketch a parfaitement raison. Et puis un autre auditeur vous dit « Je suis très content d'écouter Serge de Beketch aujourd'hui. Je suis très inquiet de l'évolution générale de la radio, mais si SDB Serge reste fidèle à lui-même, j'ai confiance. »
Mais je ne vois pas le motif d'être inquiet pour l'avenir de la radio parce que... pour l'avenir n'est pas menacé pour la radio. On attend le renouvellement de l'autorisation d'émettre par le CSA et je vois pas de raison pour laquelle ça ferait difficulté. Je dois dire que c'est simplement des mauvaises langues, comme dirait Marine Le Pen, qui font courir le bruit que la radio est en difficulté, ce qui est totalement faux. Et puis il n'y a pas de raison que je change. Et je vois vraiment pas ce qui a pu changer d'ailleurs, parce que l'argumentation selon laquelle on a changé quelque chose dans cette radio ne résiste pas à l'analyse, pas une seule seconde, voilà. Donc c'est exactement la même radio, à part deux ou trois personnes qui sont parties ou qui ont été exclues, mais enfin on va pas revenir là-dessus indéfiniment, hein, ça va comme ça. Voilà. En ce qui concerne le... Je vois, il y a pas mal de questions sur l'article dont parlait Goffman à l'instant. Ce que je voudrais dire, c'est que je constate une chose. On me reproche, certains me reprochent d'avoir attaqué Sarkozy. Mais d'abord, j'ai pas attendu que je sois président de la République pour le faire. C'est un moment que je dis que c'est un mauvais choix. D'autre part, on m'a jamais fait ce reproche quand je disais que Mitterrand, c'était une catastrophe. Alors, je vois pas pourquoi je serais très très différemment Sarkozy de Mitterrand, étant donné que c'est exactement la même politique qui va être conduite. Et je dis tout simplement que Sarkozy, c'est une catastrophe. Et vous allez vous en apercevoir. Je suis absolument certain qu'on va s'en apercevoir beaucoup plus vite qu'on ne le redoute. Beaucoup plus vite. Et mon devoir de journaliste et de directeur de journal, c'est de dire ce que je pense. Autrement, je ne sers à rien. Donc je le pense, je le dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ça, c'est évident. C'est pas moi qui vous en empêche. Je suis un démocrate, comme chacun sait. C'est-à-dire, j'ai pas le pouvoir d'empêcher les gens de ne pas être d'accord avec moi, plus précisément.
Je peux répondre, Serge, à l'auditeur qui me dit que je n'ai pas à m'excuser pour cet article. Je suis confus parce qu'il y a une certaine candeur à croire que je m'en excusais. Bien entendu, j'ai dit et répété que cet article était scandaleux et avait scandalisé jusqu'à des collaborateurs du Libre Journal, tout simplement pour attiser la curiosité. C'est ce que j'appellerais du teasing, si j'osais ainsi m'exprimer.
Oui, oui, mais bon, moi, ma position, c'est que je revendique la liberté de faire le journal comme je l'entends, de mettre dedans ce que j'entends, le lecteur ayant la liberté de s'abonner ou de ne pas s'abonner, de l'acheter ou de ne pas l'acheter, de le lire ou de ne pas le lire. Mais on ne fera pas changer. J'ai toujours fait ça et je vais continuer. Et je crois que de toute façon, le temps viendra où on dira, bah oui, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai déjà eu un message de quelqu'un qui m'a dit, finalement, vous aviez raison. Lui, il a été plus rapide que les autres. Et voilà, c'est tout. On s'apercevra que c'est la pire des catastrophes. La pire des catastrophes. Enfin, écoutez, regardez son ministère. Monsieur Juppé, repris de justice. Madame... je sais plus son nom. Enfin, peu importe. Qui est bon, certainement une dame charmante, très bien. En tout cas, elle a séduit tout le monde par son élégance. Oui, mais bien sûr, pour l'usage que j'en ai, elle est tout à fait assez mignonne. Et bon, mais enfin, elle est faite pour être garde des sceaux, comme moi, je suis fait pour être acrobate de cirque. Faut bien reconnaître quand même. Hein. Bon, le Kouchner. Est-ce que vous avez voté Sarkozy pour avoir Kouchner aux affaires étrangères? Franchement. Vous avez voté Sarkozy pour avoir Fillon, Premier ministre?
Pour l'avoir dans le Fillon.
Écoutez, il faut être sérieux, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez voté Sarkozy pour avoir un type mais qui, le soir de son élection, fout le camp. Non, mais je parle à ceux qui ont voté Sarkozy.
Vous savez bien que c'est un ministère électoral. François Brignol l'a expliqué en long, en large et en travers.
Moi, je le sais, mais le journal sert aussi à le faire savoir à ceux qui n'ont pas
voté. On va avoir un remaniement.
Voilà. Bon. Eh ben, écoutez. Tant pis, enfin bon, si vous êtes content, c'est l'essentiel.
Rachida ira garder les sottes.
Profitez-en bien, parce qu'à mon avis, ça va durer beaucoup moins longtemps que les impôts. Voilà, bon, ayant dit, j'ai dit, vénérable maître, nos travaux sont terminés.
Une toute petite seconde, parce que j'ai plusieurs messages curieux qui nous demandent, allez-vous rendre hommage à Loïc Leribaud qui est décédé?
Bah écoutez, c'est d'autant plus, enfin c'est pas curieux, il y a des signes, il y a des intersignes, hein, Jean-Paul.
Oui, puisque j'arrive.
Jean-Paul est venu pour nous parler de.
J'arrive directement de l'enterrement de Loïc Leribaud qui se passait en Bretagne, et effectivement, je suis bien là pour parler de Loïc Leribaud, mais les hasards de la vie, ce qu'on appelle les synchronicités, sont tels que j'ai écrit deux livres sur deux personnages, Gérard Wedlich et Loïc Leribaud, et il se trouve que les deux viennent de décéder à quelques semaines. Quelques jours même d'intervalle, alors je parlerai...
C'était deux amis de cette émission, Gérard était un auditeur extrêmement fidèle de l'émission, il était venu parler plusieurs fois à ce micro, il avait été sauvé par le professeur Beljanski et par les produits Beljanski, et c'est pour ça que je veux dire tout de suite, pour rassurer ceux qui ont fait confiance au professeur Beljanski et à ses découvertes, que Gérard n'est pas mort des conséquences du sida qu'il avait contracté en tentant de sauver un noyé, oui. Mais il est mort d'une maladie qui était dans sa famille depuis longtemps.
Un lymphœdème, c'est-à-dire la jambe qui gonfle avec ça, et, voilà. Et sa circulation s'est interrompue, ce après quoi un caillot s'est déplacé et en fait il en est décédé.
Et il s'est battu avec une énergie magnifique contre la maladie. Contre cette maladie-là, de la même manière que c'était battu avec une énergie.
Tout à fait. Des médecins l'avaient donné mort à peu près deux ans plus tôt. Il est parvenu quand même, en se soignant avec intelligence, à prolonger sa vie de 2 ans, avec beaucoup d'intelligence.
Voilà, alors, parlez-nous un peu de Gérard, puisque vous avez écrit, Jean-Paul, un livre avec lui.
Oui, d'abord, j'en parle avec émotion, parce que ce sont des personnages auxquels on s'attache. Dans la vie de journaliste, on rencontre suffisamment de crapules brillantes, on rencontre rarement des gens d'une grande valeur. L'intelligence ne manque pas tellement à notre époque, on rencontre aussi des crapules intelligentes. Mais des gens dont toute la valeur est d'abord une valeur morale, c'est ce qui manque le plus dans notre société, et c'était la qualité essentielle de Gérard Wedlich, qui a remarqué toute une vie. Gérard Wedlich, ça aurait été une vie qui aura reposé sur la fidélité et la reconnaissance. D'abord reconnaissance à sa mère et fidélité à sa mère, et qui meurt dans ses bras en étouffant suite à une crise d'asthme. Et à la suite de ça, voilà, sa vie va changer. Il est jeune, il est beau, il est sportif, il a tout un avenir devant lui, il est intelligent. Mais il décide d'entrer chez les CRS. Et il me disait, pour moi, CRSSS, ça voulait dire CRS, sauveteur secouriste. Et toute sa vie, cet homme, dont la mère est morte dans ses bras en étouffant, il n'a rien pu faire. Et bien sur les plages, les gens qui se noient, il va essayer de les faire respirer. Il y a là-dedans une logique extraordinaire, déjà une fidélité à son destin, une réaction devant son destin, qui est vraiment étonnante et qui est la base d'un homme dont la morale aura été tout le temps exemplaire. Donc il aura passé son existence à la suite de cela à sauver celle des autres. On peut dire, quand on pense aux paroles du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà un homme qui s'est énormément rapproché de Dieu pendant ces dernières années. Mais toute sa vie, il aura appliqué ça. Il aura passé sa vie à aimer les autres, à les aider à survivre. Alors un jour, effectivement, comme chaque fois qu'il essayait de sauver quelqu'un, il allait toujours trop loin. Et les autres disaient, mais Gérard, arrête, c'est terminé. Mais lui, l'image de sa mère était toujours là et il continuait, il allait toujours trop loin. Et un jour, il est allé trop loin une fois de plus. C'était un Allemand qui n'était pas rasé, comme c'est, vous savez, la mode maintenant, comme certains que je vois sur ma droite. Parce que Goffman, figurez-vous, c'est affreux, s'est laissé légèrement pousser la barbe. Cette espèce d'air pseudo-aventurier ne lui va pas du tout. J'espère qu'il va bientôt changer et reprendre sa moustache conquérante qui lui allait si bien. Je reviens à Gérard. Et il a donc affaire à quelqu'un qui est en train de se noyer, qui s'est noyé, qui essaye de faire revivre. Cette personne ne s'est pas rasée. Et il va lui faire un bouche-à-bouche qui va durer 3 quarts d'heure sur une barbe à peine... Comme l'horrible barbe de Goffman, à peine naissante, c'est espèce de barbe dure, par ce qu'on appelle un phénomène de dermabrasion, il va saigner. Souvent les noyés vomissent du sang parce que il se passe souvent ce qu'on appelle un œdème pulmonaire. Cet homme-là était surchargé de virus du sida. Gérard, c'est beaucoup plus qu'une petite piqûre de drogué, aura passé 3 quarts d'heure en contact avec ce sang contaminé. Cet athlète, père de famille, en pleine forme, quelques temps après, développe un sida, mais déjà les premières maladies du sida, c'est-à-dire qu'il a quelques temps avant de mourir. À l'époque, il n'existe strictement rien pour le sida. Et alors, première leçon de courage, d'intelligence, voilà un homme qui va se dire, eh bien, s'il n'existe rien de connu, peut-être existe-t-il quelque chose, quelque part, qui sauvera les autres dans 20 ans, à moi de le découvrir et d'essayer de me sauver tout de suite. Et il finit par, après des recherches, alors, avec beaucoup d'intelligence, il met sa tenue de CRS, il rentre dans les plus grands laboratoires, je veux voir le professeur Intel, des gens que personne ne peut voir. Le professeur Intel se dit, quoi, un CRS, j'ai peut-être un problème, quelque chose. Et là, il arrive, écoutez, je suis chargé de donner des cours de secourisme, nous avons des risques de sida, expliquez-moi tout ce que vous savez sur le sida. Et il fait le tour des spécialistes. Et finalement, il arrive à Châtenay-Malabry, chez quelqu'un qui s'appelle le professeur Mirko Beljanski, qui lui dit, écoutez, il se trouve que j'ai trouvé quelque chose qui agit particulièrement sur l'herpès. L'herpès est à peu près les mêmes, ça ressemble un petit peu au sida, c'est très difficile à expliquer maintenant, je crois, parce qu'on arrive dans des domaines techniques, en fait. L'herpès est un virus à ARN, et les autres sont souvent des virus à ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Et il se trouve que sur ces virus-là, Mirko Beljanski avait trouvé quelque chose. Et il lui dit, écoute, j'y ai jamais essayé, mais il n'y a pas de raison que ce qui parvient à un résultat sur le virus à ARN de l'herpès ne fonctionne pas sur un virus presque semblable. On tente le coup. Et là, Gérard sera le premier à essayer des produits Beljanski, ce qu'on appelle en monothérapie, c'est-à-dire sans rien faire d'autre, puisque de toute façon, il n'existe rien. Et puis, 22 ans après, Gérard est mort, mais de tout à fait autre chose, effectivement, d'une maladie qui avait déjà tué sa mère à peu près au même âge, ce qui s'appelle un lymphœdème. Voilà. Entre-temps, cet homme aura continué à mener une vie exemplaire, parce que après avoir sauvé sa vie, alors qu'il avait failli attraper la mort en sauvant celle des autres, eh bien, il se dit, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas, moi, puisque les autres ne le savent pas, de leur apprendre qu'il existe une solution pour le sida? Il était policier, il était CRS, et beaucoup de policiers, beaucoup de pompiers qui ont désincarcéré des gens dans des voitures, les gens sont blessés, beaucoup de gens attrapaient le sida à l'époque, il n'y avait pas de solution. Alors, alerté par un syndicat de police, il commence à donner des conseils à un autre policier en train de mourir, qui sort d'affaire complètement grâce à lui. Et puis, il se trouve que les produits Beljanski étaient également efficaces pour le cancer. Alors moi, au début, quand j'ai enquêté là-dessus, je me disais, c'est impossible qu'un produit puisse être efficace sur deux maladies aussi différentes. Mais le cancer, c'est également une maladie de l'ADN. Et ce qui agissait sur l'ADN ou l'ARN, sur les complexes entre les deux, on pouvait s'expliquer qu'on ait des résultats sur le cancer. Et donc, Gérard se dit, ben voilà, j'ai sauvé ma vie, je vais créer une association de malades guéris et je vais aider le maximum de malades à profiter de la chance qui a été la mienne. Et là, ce type qui était quand même homme de troupe chez les CRS, caporal chef de CRS, c'est quand même pas un sommet, eh bien, apprend à parler, apprend à écrire, passe à la télévision, avec un toupet invraisemblable, dans des dîners en ville, il va voir le ministre de la Santé, Kouchner, pour interrompre son dîner, et Kouchner s'écrie, mon Dieu, voilà encore l'emmerdeur, parce que Gérard était partout. Il passe à la télévision je ne sais combien de fois, il continue de se battre, il est créé une association qui va payer à Beljanski, quand il sera en retraite, des laboratoires payés par les malades reconnaissants. Seulement, tout ça faisait beaucoup d'ombre au lobby de la chimiopharmacie, qui instrumentalise les impôts, qui instrumentalise le ministère de la Santé, et un beau jour, dans les laboratoires Beljanski pénètre le GIGN, on défonce les portes, on casse les ordinateurs, on pose les scellés sur les portes, le pauvre Beljanski, 75 ans, quand on voit que tous ces pseudo-chercheurs qui ne trouvent rien sont payés à prix d'or par l'État, lui, son laboratoire, c'est ses malades reconnaissants qui l'avaient payé, ce n'est quand même pas la même chose. Il ferme totalement les laboratoires, il n'a plus le droit d'y pénétrer, mais de plus, on l'inculpe, et on lui dit, voilà, puisqu'il y a inculpation, il y a secret de l'instruction. Vous n'avez plus le droit de prendre la parole. Et c'est le moment où on lance contre lui une immense campagne de presse. Il ne peut pas parler. Et des malades m'ont raconté que Beljanski est allé un jour lors d'une réunion de malades, assis, tout pâle, et un malade lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, professeur? Et Beljanski, les larmes aux yeux, dit, mes pauvres enfants, je n'ai même pas le droit de vous adresser la parole. Alors, c'est Gérard Wedlich qui va donc prendre la parole à la place de Beljanski, qui va continuer à parler, qui va se battre, et qui va demander, lui, à être inculpé pour pouvoir avoir accès au dossier et participer à la défense du professeur qui lui a sauvé la vie. Toujours cette morale extraordinaire de cet homme qui, après avoir sauvé la vie des autres, continue encore de sauver la vie des autres, et en plus, par reconnaissance, va également essayer de sauver son sauveur, Beljanski. Franchement, quand on connaît ce genre de personnage, on réalise qu'il peut y avoir une autre dimension dans l'humanité, et on se dit qu'à une époque comme la nôtre, où l'intelligence, vous savez, est tellement répandue, une telle valeur morale, ça on ne trouve pas. Franchement, je vous pose la question, Serge, dans votre vie de journaliste, combien de personnes d'une telle valeur avez-vous trouvé? Aussi solides comme des rocs?
Pas beaucoup. Gérard m'a beaucoup marqué parce que il avait cette extraordinaire simplicité, cette pureté d'enfant. Une pureté de gosse,
totalement,
une simplicité,
totalement désintéressé, ne pensant qu'à sauver les autres. Vraiment.
D'ailleurs, je pense que une des pires choses qu'on ait pu lui faire, ça a été de le condamner alors qu'il avait demandé à être inculpé. Il n'était pas du tout question d'inculper. C'est lui qui a demandé à être inculpé pour participer, pour avoir connaissance, vous l'avez dit, pour accéder au dossier, pour défendre son ami Beljanski, et il a été condamné d'une façon répugnante, parce que cette justice qui était incapable de lui rendre justice quand il a tout perdu, quand il est tombé malade, il s'est retrouvé dans une situation catastrophique, avec la hiérarchie militaire, enfin pas militaire, policière, qui se sont conduits comme des salauds,
oui.
En essayant d'instrumenter contre lui certains de ses camarades pour qu'il témoigne qu'il allait voir des prostituées. C'était comme ça qu'il avait contracté le sida. Et Gérard était épouvanté par de voir la trahison de ses chefs. Alors, qui obéissait à des mots d'ordre venus de la hiérarchie. Donc déjà, ça, il avait été blessé. Et puis ensuite, quand il a été condamné devant le juge, il était effondré.
Je voudrais revenir, si vous permettez, à cet instant très fort. Effectivement, en tant que journaliste, j'étais donc là au tribunal. Et si vous voulez, pour quelqu'un qui, d'une part, a l'esprit aussi pur et tellement certain de n'avoir rien à se reprocher, mais qui en plus a été toute sa vie un représentant des forces de l'ordre, se retrouver lui traîné devant la justice. Il faut savoir qu'au départ, il est allé voir les CRS en disant je ne quitterai pas cette gendarmerie tant que je n'aurai pas été inculpé. Mais monsieur Wedlich, on n'a strictement rien contre vous. Je vais participer à tout ça. Je suis aussi responsable que monsieur Beljanski. Là où il irait, je veux aller. S'il est condamné, je veux l'être. Je veux être inculpé. Voilà un homme contre lequel on n'avait rien. Mais le moment venu, on lui trouve une dizaine de chef d'inculpation, alors qu'il n'y avait rien au départ, et le voilà traîné devant les juges. Et il était dans un tel état de stress qu'il ne mangeait pas depuis plusieurs jours. Sa femme n'arrivait pas à l'alimenter. Il prenait quelque chose d'excellent qui s'appelle les fleurs de Bac, que je vous conseille. C'est un produit naturel à base de fleurs qui est excellent, un tranquillisant naturel. Et il en buvait à la bouteille au tribunal. Il était blême. Quand il est passé devant les juges, il avait la sueur aux tempes. Il était blême. Il était dans un état de presque... Mais ça faisait mal de le voir. Et il a dit au juge cette chose extraordinaire. Deux choses. La première, je ne suis pas juriste. Les lois des juges sont susceptibles de changer en fonction des législateurs. Mais il y a une autre loi qui a toujours été présente au cœur des hommes. Ça s'appelle la morale. Et moi, monsieur le juge, quelle que soit la condamnation par ailleurs, j'ai passé ma vie à sauver celle des autres. Je vous demande de ne pas me condamner au nom de la morale. Des juges ont rarement entendu un tel discours. Et le juge qui a jugé, mais également l'accusateur public, a tenu à lui faire marque de respect et à dire « Nous ne vous condamnons pas au nom de la morale, mais vous avez contribué à la distribution d'un produit qui n'avait pas d'autorisation de mise sur le marché, donc vous aurez une condamnation de principe, mais au nom de la morale, vous n'avez pas à rougir. » Il a eu aussi des mots qui nous ramènent encore à ce que je disais des paroles du Christ « Aimez-vous les uns les autres ». Je suis sûr que jamais un juge n'a entendu ça dans un tribunal. Il a dit « Monsieur le Président, depuis trois jours qu'existe que nous sommes jugés, j'ai entendu parler d'intérêts financiers, j'ai entendu parler de règlements auxquels je ne comprends rien, mais j'ai entendu parler bien peu d'amour. Et moi, toute ma vie, j'ai essayé simplement d'aimer mes semblables et de les sauver. Et je me rends compte que dans un monde comme le nôtre, eh bien évidemment, aimer ses semblables, c'est extrêmement risqué. Voilà ce qu'on peut dire de Gérard Wedlich. Et je pense que vraiment, c'est dans une vie de journaliste, l'individu le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Oui, malheureusement, il a très mal supporté ce passage devant la justice. Il n'a plus été le même à partir de ce moment-là. Je pense que ses défenses immunitaires ont dû, sous l'effet de ce stress oxydatif, s'abaisser quelque peu. Une maladie héréditaire qui avait tué sa mère s'est installée. Il a lutté avec beaucoup d'intelligence. Et il a fini par disparaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est comme il aimait toujours avoir le dernier mot, parce que comme tout être humain, il avait aussi ses petites particularités. Alors il a écrit lui-même son oraison funèbre et l'a fait lire par son avocat. D'ailleurs, je l'avais donné. Est-ce que tu l'as amené par hasard?
Non, je ne l'ai pas apporté, malheureusement.
C'est dommage, il aurait été intéressant de la lire, parce que c'était encore un cri d'amour vers Dieu, un cri d'amour vers les hommes. Et ce que j'aurais voulu qu'on entende aussi, c'est le cri d'amour vers sa femme. Parce que Gérard n'aurait pas existé sans Pilou. Il a eu une femme extraordinaire, qui l'a suivi partout et qui est maintenant évidemment dans un état de désespoir parce qu'elle était tout Gérard. Et Gérard était tout. Alors il parle de l'amour fusionnel avec sa femme jusqu'au dernier moment, jusqu'à travers ces derniers mots qu'il a fait prononcer par son avocat dans cette église. Il a vraiment été quelqu'un d'exceptionnel. Donc je dis adieu ici à Gérard et je signale quand même, et ce n'est vraiment pas commercial, j'espère qu'on le comprend, que j'ai écrit un livre sur Gérard qui s'appelle Enquête sur un survivant illégal, qui raconte tout ce que je viens de vous dire là et bien d'autres détails. Par exemple, les gendarmes allant chez les malades, leur prendre leurs médicaments sur leur table de nuit, moyennant quoi des dizaines sont morts parce qu'ils n'avaient plus leur produit Beljanski.
On avait reçu une malade comme ça qui a été emportée à 200 km de son domicile par les gendarmes.
Tout à fait.
Et c'est quelqu'un... Alors elle, c'était pareil, elle avait contracté une maladie dans l'exercice de sa profession.
Enfin, parce qu'elle avait été très mal soignée à l'hôpital et qu'on lui avait fait un nombre incroyable de poches de sang contaminées. Ouais. Et il disait, cette malade qui s'appelle Francine Boquet, ils m'ont tué une première fois à l'hôpital en loupant mon opération. respiration, une deuxième fois en me bourrant de sang contaminé, et il me tue une troisième fois en me retirant les seuls produits qui peuvent me maintenir en vie. Heureusement, elle est parvenue à trouver les produits Belzhansky, puisqu'ils existent encore aujourd'hui, et elle a survécu, elle est toujours là, et elle aussi qui devrait être morte, qui n'avait aucune chance. Eh bien, elle est là maintenant, plus de 20 ans après, en pleine forme.
C'est vrai, c'est quand même, il faut toujours avoir présent cette affaire Belzhansky à l'esprit, quand on réfléchit sur le comportement du système industriel et commercial en France, et notamment du lobby pharmaceutique, qui est véritablement une bande de gangsters criminels. Et on en a des exemples multiples du caractère nocif, néfaste et criminel de ces activités. Des gens qui interdisent, alors par tous les moyens, par la dérision, par la loi, par des campagnes de presse diffamatoires qui interdisent les malades, qui interdisent aux malades de soigner comme ils l'entendent. Après, d'ailleurs, avoir constaté que eux-mêmes, les industriels de la pharmacie, ne pouvaient rien faire. Et quand on pense, par exemple, que un des plaignants contre dans l'affaire
Belzhansky aura été une association montée de toutes pièces par les laboratoires, ouais. Et ces gens-là qui n'ont aucune pudeur, et je dirais même naïveté invraisemblable dans leur crapulerie, le nommé Mangeot, qui était le président de cette association, une association de sidéens qui a attaqué Gérard Wedlich, sidéens et qui aidait les autres à se sauver, eh bien l'association était dirigée par le propre fils des laboratoires Wellcom, qui fabriquait un produit tellement inefficace qu'on contre le sida, mais vendu à prix d'or, qu'en France, en Angleterre, aux USA, les malades ont porté plainte pour empoisonnement. Eh bien, ce sont ces gens-là qui vont devant un tribunal, qui sont pris au sérieux, qui demandent des dommages et intérêts à quelqu'un comme Gérard Wedlich, alors que ça n'est même pas caché. Quoi. C'est le fils du président qui a créé l'association. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit. On peut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, en débordant un peu là-dessus, on peut dire que, hélas, la médecine a à peu près totalement échappé aux médecins et qu'elle est totalement sous le contrôle du lobby de la chimiopharmacie. Et qu'en dehors de la sacro-sainte molécule chimique de synthèse, eh bien, il ne doit rien y avoir et qu'on attaque sauvagement tout ce qu'on a pu créer.
Pour dire jusqu'où ça va, j'ai un ami médecin qui a été suspendu pendant 24 heures. Ils se sont quand même rendus compte au Conseil de l'Ordre que cette affaire prenait des proportions un peu exagéré, mais ils ont quand même infligé une suspension de 24 heures parce qu'il avait utilisé un médicament à des fins qui n'étaient pas inscrites au Vidal. C'est-à-dire, c'est un médicament qui contient du fer, mais qui n'est pas destiné à remédier à la carence de fer, mais qui contient du fer, donc qui peut être utilisé. Seulement, sur le Vidal, ça figure pas comme ça. C'est un produit qui sert à autre chose. Et donc, il a prescrit à un de ses patients qui avait une carence en fer. Eh bien, il a été poursuivi et suspendu pendant 24 heures par le Conseil de l'Ordre pour ça. Alors, c'est plus la peine de vous emmerder à faire médecine, vous achetez le Vidal, vous dites au type, qu'est-ce que vous avez, une grippe? Bah, écoutez, vous prenez page 40 du Vidal et vous avez les remèdes.
En matière de cancérologie, pour aller plus loin dans ce que tu exprimes, on applique ce qu'on appelle des protocoles. Il m'est arrivé de dîner avec un grand cancérologue et je lui dis, comment se fait-il qu'on vient vous voir du monde entier et que vous ayez effectivement des résultats qui sortent de l'ordinaire? Expliquez-moi, j'aimerais bien comprendre, et surtout quand vous m'aurez expliqué, à ce moment-là, j'y ajouterai foi. Et il me dit, en matière de cancérologie, le protocole est le comble de la médiocrité. Alors qu'est-ce que c'est que le protocole? Vous avez tel cancer, de tel stade, vous faites tel poids, vous êtes de tel sexe, et il a été décidé là-bas dans un laboratoire qu'on va vous appliquer telle chose. Or il se trouve, comme me dit ce professeur, moi je ne suis pas médecin, je répète ce que me dit un grand professeur en médecine, bon, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il aurait évidemment les pires problèmes, et il me dit, il n'y a pas deux malades qui réagissent de la même manière à leur cancer, il n'y a pas deux cancers qui réagissent de la même manière à leurs médicaments, la seule façon de travailler, c'est d'adapter chaque traitement à chaque malade. Je fais rentrer un livre chez l'éditeur dont je suis directeur de collection, d'un nommé Philippe Lagarde, je peux donner son nom parce qu'il est loin, il a une clinique, on vient voir lui aussi du monde entier pour ce résultat, qui est à Saint-Marin. Et dans son livre, il dit exactement la même chose. Ils ne se sont même pas rencontrés. Le protocole est le comble de la médiocrité. Mais dans la plupart des cas, on vous applique des protocoles. Vous n'êtes pas monsieur un tel avec votre histoire. Vous êtes le cancer ou telle maladie de la chambre tant. Et on vous applique le protocole aveugle, quels que soient les résultats.
Moi, je peux apporter mon témoignage personnel. Quand j'ai été soigné pour le Hodgkin, on est arrivé à me coller à l'occasion d'une endoscopie le virus de l'hépatite B.
Voilà.
Bon. Mais on s'en est aperçu.
Les maladies nosocomiales.
Voilà. Alors, donc on a fait donc le protocole, le fameux protocole. Et puis, à la fin du protocole, on me dit, maintenant, il reste l'aplasie médulaire provoquée. C'est-à-dire qu'on vous enferme dans une chambre stérile pendant un mois et on vous supprime totalement les globules blancs. C'est bien ça, hein?
Oui. Ouais.
Et donc, il ne faut pas qu'il y ait le moindre microbe qui rentre dans la pièce parce que vous mourrez instantanément ou peu s'en faut. Donc, à l'époque, on ne savait pas du tout que j'étais contaminé par le virus de l'hépatite B. Et je dis au toubib qui me soignait, qui était un homme charmant d'ailleurs, et compétent puisqu'il m'a guéri. Je lui dis non, la plasie médulaire, j'en veux pas. Il me dit, mais ça fait partie du protocole. Je dis, je m'en fous. J'ai vu le professeur Tartampion l'hôpital militaire pas Béguin, l'autre.
Oui, enfin, bon. Val-de-Grâce, non?
Val-de-Grâce, oui. Qui m'a examiné, qui m'a passé dans le sarcophage, et je suis totalement blanchi, donc je trouve inutile de le faire, je ne le ferai pas. Mais c'est pas raisonnable, il faut le faire, il faut qu'on aille au bout du protocole et tout. J'ai dit non, moi je vais pas au bout du protocole, je suis guéri, voilà, on arrête tout. Un mois après, il m'appelle, il me dit, écoutez, venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire, c'est important et tout. J'arrive, il me dit, monsieur de Becquet, je suis obligé de vous dire que, au cours du traitement, vous avez été contaminé à l'hépatite B. Je lui dis, d'accord, et si j'avais été jusqu'au bout du protocole, si j'avais subi la plasie médulaire provoquée, qu'est-ce qui m'arrivait? Ben, j'étais mort.
Ah oui.
Voilà, c'est aussi simple que ça.
Voilà.
Donc, l'histoire du protocole, il s'est écrit, alors c'est même pas la peine de faire des études de médecine, puisque... Enfin, bref, voilà.
Comme c'est quand même l'œuvre de Gérard Wedlich qui a créé donc le CIRIS, qui est l'association de ces malades guéris, qui se sont donnés simplement pour but, et d'ailleurs dont je suis un des administrateurs, puisque je fais moi aussi partie des malades guéris par les produits Belgianski, j'avais il y a 7 ans 3 mois à vivre. Et je suis là aujourd'hui parce que j'ai pris des produits Belgianski. Donc, il y a une association de malades qui aide simplement d'autres malades à bénéficier de la chance qui a été la leur. Alors, il ne faut pas dire aux gens que c'est un miracle, les produits Belgianski. Ce que m'a dit Madame Belgianski, alors que moi, j'avais déjà commandé mon cercueil, j'avais pris mes dispositions pour brûler mon corps, j'avais déjà dit adieu à ma femme et à mes enfants, elle m'a dit, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tellement multiplier vos chances de survie que vous n'avez pas le droit de ne pas vous battre. Eh bien, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit et je suis là. Eh bien, en fait, ces gens-là, on peut leur dire qu'effectivement, le CIRIS, cette association de malades, peut leur donner les indications pour multiplier les chances de survie de leurs proches de manière extrêmement importante avec les produits Belgianski qui, Serge le sait comme moi, ne sont pas du tout faits par des commerçants mais par des gens qui y croient vraiment. Après que Belgianski soit mort, c'est sa femme et sa fille qui est depuis les USA où ça se passe très bien, où là-bas ils ont été très bien accueillis.
Il s'appelle Madame McCarthy. Elle s'appelle pas être entièrement mauvaise.
Non, rien à voir avec le vrai McCarthy quand même. Ah bon, et puis ils reconnaissent le nom de Sylvie Belgianski. Voilà. Bon, voilà. Donc, je donne aux gens quand même l'adresse du CIRIS ou ma téléphonique. Ils peuvent appeler au 05 46 75 39 45 le CIRIS.
05, s'il vous plaît.
05 46 75 39 75. Là, ils tombent sur quelque chose qui leur répond automatiquement, qui leur donne les indications. Il y a aussi Naturel Source aux USA où sont les produits Belgianski. Le site web est le www.natural-source.com. Je répète, site web www.naturalsource-union.com. Il y a un site Belgianski aussi, www.belgianski.com. Je répète, www.belgianski.com. Et puis aussi l'éternel email. Alors je ne me sers jamais de ces choses-là, moi je suis toujours perdu. info@natural-source.com. Voilà. Et franchement, c'est pas du commerce. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe dans peu de temps maintenant, et qui vraiment est le comble de la bonne foi, et pour le moral des malades, quelque chose d'inouï, c'est que il y a tous les ans, le premier dimanche de septembre à Sainte, au couvent de recouvrance, qui nous est prêté par des religieuses charmantes, une réunion où des centaines de malades guéris, parfois depuis 15 ans, parfois depuis 20 ans, viennent témoigner. Et quand on est un nouveau malade, qu'on est au fond de l'angoisse, et qu'on rencontre des gens qui vous disent « Mais voilà, j'ai exactement la même chose que vous, seulement c'était il y a 15 ans, je suis là, et voilà comment j'ai fait », ça fait aux gens un bien extraordinaire. Alors, je convie les gens qui auraient des malades dans leur famille à venir assister à ce témoignage. J'y serai moi-même et je raconterai d'ailleurs comment j'ai survécu et d'autres le raconteront comme moi. Et l'ombre de Gérard sera également présente.
Merci Jean-Paul. On va parler juste après parce que bon, cette émission risque de prendre un peu les allures d'une veillée funèbre, mais il faut parler de Loïc Leribaud qui est mort également et à qui vous avez consacré aussi un livre qui sort, je sais pas, aujourd'hui ou...
Alors le livre en question devait sortir dans quelques mois. Sa parution va être hâtée pour répondre à toutes les demandes qu'on nous a déjà faites. Et simplement, les gens peuvent le commander par avance chez l'éditeur Guy Trédaniel, 19 rue Saint-Séverin. Et ils le recevront sous parution.
Paris 5e, n'est-ce pas ?
Paris 5e, je crois, oui, en bas du boulevard Saint-Michel, c'est vrai, c'est 5e ou 6e, 5e sans doute. Hein. Voilà.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais
oui, tout à
pour
fait.
Changer un peu d'atmosphère, je propose qu'on donne la parole à Maxime Lenôtre, qui vient de consacrer un nouvel ouvrage à l'islam, dont il est un spécialiste, islamologue distingué, intitulé Mahomet, fondateur de l'islam. Alors, le titre n'est pas une révélation, quand même.
Non, le titre n'est pas une révélation. Enfin, on sait très bien que Mahomet a quelque chose à voir avec l'islam. Qu'il soit le fondateur, mais enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas admis par tout le monde, parce qu'on pense qu'il est un prophète, avant tout. Ouais. Et sa dimension d'homme politique et sa dimension de conquérant, puisque ça a été quand même un des plus grands conquérants de l'histoire... Eh bien, est quelque chose d'entièrement nouveau. C'est-à-dire qu'on n'insiste pas assez sur ces questions-là. Et on n'insiste pas assez parce que, là, bon, nous allons parler un peu d'histoire, si vous voulez. Je voudrais vous dire deux mots sur la recherche. Vous avez parlé de comment en médecine ça se passait très mal parce qu'il y a une version officielle et il y a une version réelle des choses. Eh bien, dans la recherche, c'est exactement pareil. Dans la recherche historique, c'est pareil. Et alors dans cette recherche historique, il faut savoir quand même qu'en histoire, on arrive quand même à des résultats. Il y a certains... La science historique progresse, en particulier par l'archéologie, par les témoignages, et on arrive à faire de la révision. Excusez-moi de dire...
Je vous laisse la responsabilité voilà, de cette affirmation.
De dire cette chose. L'histoire est une perpétuelle révision, et je voudrais que les auditeurs sachent que c'est qu'une hypothèse historique. Une hypothèse historique, c'est quelque chose de sérieux. L'histoire, c'est quelque chose où on a quand même assez peu de... Pour certains sujets, comme le sujet en particulier de l'islam, nous avons à la fois des choses archéologiques et également des témoignages, mais ils sont assez peu nombreux et on a énormément de trous. Alors on est obligé de faire différentes hypothèses. Et quand les hypothèses, c'est ce qu'on appelle une hypothèse scientifique, hein, collent à la réalité, eh ben, ça va, c'est provisoire. Mais dès qu'on découvre quelque chose qui va contre ces hypothèses, eh ben, il est évident que ça ne marche plus à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Mahomet. Alors, les fondations de l'islam en général. Alors, les fondations de l'islam, ça c'est pas le titre, le titre n'est pas nouveau, j'ai repris un petit peu, parce que les fondations de l'islam, c'est un livre d'un grand chercheur qui s'appelle Alfred Louis de Prémard, qui est un des plus grands chercheurs actuellement en matière d'islam, qui a écrit il y a 2 ans un livre qui porte ce titre. Et c'est un des seuls qui soit sérieux actuellement dans la recherche historique. Enfin, il y en a plusieurs qui sont sérieux, mais enfin, c'est un des seuls que l'on peut vraiment recommander. Alors donc, pour reprendre sur cette question d'hypothèse historique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'islam ? Ah oui, il faudrait d'abord que je dise que l'historien ait une certaine honnêteté, hein, c'est quand même la moindre des choses. Dès qu'un historien essaye de démontrer une thèse ou qu'il est passionné, il est évident que ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe le plus souvent dans l'islam. Dans l'islam, eh bien, là aussi, disons qu'il y a la passion politique, il y a la passion idéologique.
Il y a la prudence aussi.
Oui, il y a la prudence aussi, et il y a des intérêts aussi, des intérêts matériels et des intérêts des honneurs. Alors, il faut savoir que les chercheurs, eh bien, il y a deux sortes de chercheurs. Il y a les chercheurs officiels, effectivement, et il y a les chercheurs officieux. Et en particulier en matière d'islam, il y a un chercheur qui est officieux et qui n'a jamais eu d'honneur. C'est un prêtre, hein, qui s'appelle Édouard-Marie Galès, dont on a entendu parler puisqu'il est passé à Radio Courtoisie. Et il est beaucoup plus sérieux que beaucoup de chercheurs qui ont tous les honneurs et qui sont invités en différentes conférences internationales. Alors donc, quelqu'un qui s'écarte, quelqu'un qui a fait toute sa carrière, un chercheur par exemple universitaire, qui a fait toute sa carrière sur la version officielle de l'islam. Je vais y revenir et indiquer peut-être aux auditeurs ce que c'est que la version officielle. C'est-à-dire Mahomet qui trouve son inspiration, c'est l'ange Gabriel, il y a le fameux voyage nocturne à Amen, le mec qui va au 7e ciel, etc. Aucun historien aujourd'hui n'écoute des calembredaines de ce genre-là. Quand ce sont des chrétiens qui disent ça, et on dit mais c'est
vrai. C'est ce que j'allais vous dire. Si c'est un chrétien, c'est irrecevable et tout le monde rigole.
Exactement.
Mais quand il s'agit de l'islam...
Alors là, personne ne dit rien. Et on sort un certain nombre de choses qui sont sont absolument fausses. Alors que dans les évangiles, il y a des personnes qui ont écrit que les évangiles sont des reportages. Une certaine Mme Cerutti, d'ailleurs, qui en avait assez d'être... après la 6 enfants des calembredaines sur les évangiles, elle a écrit un livre qui est tout à fait scientifique et tout à fait sérieux, qui s'appelle « Les évangiles sont des reportages, n'en déplaise à certains ». Alors tout ce qu'on sort actuellement sur le tombeau de Jésus, choses comme ça,
c'est même de la désinformation. Si j'ose dire encore plus que des reportages, ce sont des rapports de police, puisqu'ils sont conformes à la loi hébraïque, qui disait qu'il fallait au moins 3 témoins. Des faits rapportés. Là, il y en a 4 en ce qui concerne les évangiles. Il y a les 3 évangélistes plus Jean. Mais donc, ce sont vraiment des comptes rendus. C'est pas des imaginations. C'est encore mieux que des reportages. Le style du reporter joue ses intérêts personnels, ses passions personnelles, mais je crois que cette dame a parfaitement raison de soutenir que...
Son titre est discutable, effectivement, parce que ce sont pas des gens qui ont vu directement. Par exemple, très souvent, ils n'ont pas vu directement, ils ont rapporté des témoignages. Mais en principe, ils étaient dans le...
Sont les apôtres, ils ont quand même vu les choses.
Oui, ils ont vu les choses, et puis surtout, même ceux qui n'ont pas vu, comme Saint-Paul, ils ont eu des révélations qui correspondent.
Oui, Saint-Paul n'a pas écrit les évangiles, il l'a écrit.
D'accord. Les évangiles et le reste. Pour revenir maintenant, disons, à ces questions de recherche, eh bien, il faut savoir quand même que, en matière d'islam, eh bien, la recherche, d'abord, il y a plusieurs conditions pour être un chercheur en islamologie. C'est qu'il ne faut surtout pas avoir une hypothèse qui contredise la version officielle. Parce qu'actuellement, Mahomet, c'est le prophète. Le prophète avec un P majuscule. Or, il est évident que là, nous rentrons un peu dans le domaine, un domaine qui n'est pas du tout historique. Et il faut dire que historiquement, Mahomet laissait dire qu'il était un prophète. Ça, nous le savons. Mais tout le reste ne correspond pas du tout à ce qu'on a trouvé, et sur le plan archéologique, et sur le plan des témoignages. Alors, sur le plan des témoignages, eh bien, il y a des témoignages des Arabes. Enfin, il faut savoir que la biographie de Mahomet, cette biographie de ces... Je rappelle quand même là que c'est quand même un des plus grands personnages de l'histoire et que c'est quand même un des grands conquérants. Quand on pense par exemple que l'Empire perse, ce sont les Arabes qui ont mis, c'est Mahomet, pas Mahomet lui-même, mais Othman, qui a mis fin à l'Empire perse. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, en matière historique, était un des événements les plus importants.
Il faut reconnaître qu'il a réussi ce qu'Alexandre avait raté, ce que Charlemagne avait raté, ce que Napoléon a raté, ce qu'Hitler a raté. Oui. Ce que les deux seuls prophètes dont les idées ont duré plus longtemps qu'eux-mêmes, ça a été Mahomet, bien entendu, et Staline. Et encore Staline, ça va pas trop bien en ce moment. Donc,
et Mahomet, ça dure toujours. L'entreprise qu'il a faite est toujours actuelle. Alors effectivement, on peut dire que parmi les conquérants, c'est quelqu'un qui a eu vraiment le plus d'avenir. Et il faut dire que c'est lui quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mahomet, pour être un conquérant comme ça? Il faut savoir quand même que il s'est battu contre deux empires, hein, l'Empire perse et l'Empire des Byzantins. En gros, c'est ça. Alors donc, c'est un personnage qu'on pourrait comparer à Philippe de Macédoine. C'est-à-dire que c'est les autres, c'est Othman en particulier, qui a été le grand conquérant. Mais Mahomet lui-même a forgé l'outil, il a fédéré les tribus arabes, qui étaient des tribus qui avant étaient des tribus qui s'occupaient surtout de Razia. Enfin, c'était un peuple qui était à l'entrée et à la sortie de la route qui mène de l'Asie à l'Europe.
La route de la soie. Hein.
La route de la soie, oui, la fameuse route de la soie. Et évidemment, ils percevaient, c'était des guerriers, et donc ils percevaient leur un droit de passage. Et c'est comme ça qu'ils vivaient, c'était des gens riches.
Et d'ailleurs, selon qu'on est pour ou contre, on peut dire que c'est des douaniers ou des racketteurs.
Voilà.
Hein, des PAJ ou des racketteurs, voilà, on choisit.
Là, nous rentrons dans le domaine moral, disons qu'ils prenaient leur droit de passage. Voilà. Et donc là, jusqu'à présent, les historiens de l'islam n'ont pas, enfin, les seuls, que, non, les historiens officiels en tout cas, n'ont absolument pas pris en compte ce rôle des Arabes. Et alors là, je voudrais indiquer maintenant quelles sont les histoires officielles. Bon, je crois que vous n'avez qu'à, nos auditeurs, s'ils veulent savoir ce que c'est que la version officielle, il y a à peu près tous les mois ou tous les trois mois, il y a un livre sur Mahomet ou un livre sur l'islam qui paraît.
Mais justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la question des sources, parce que en Occident, bon, on a des sources nombreuses. Est-ce qu'il y a des sources nombreuses, fiables, sérieuses, sur l'histoire des premiers temps de l'islam?
Alors là, vous avez parfaitement raison de poser la question. Ces sources existent, elles sont très peu nombreuses. Parce que les sources arabes sont des sources, et alors là, c'est un chercheur, enfin, on dirait aujourd'hui une chercheuse, mais enfin, je préfère le chercheur. Un chercheur qui s'appelle Patricia Krohn, qui est une Suédoise, qui a été professeure à Princeton, qui a fait sa carrière aux États-Unis, et qui a découvert des tas de choses, hein, et en particulier elle est allée voir, et elle a définitivement prouvé que les sources arabes sont des sources qui sont absolument pas fiables. Ce sont des contes orientaux, et on passe d'un conte à un autre, mais c'est entièrement... Alors, il n'y a pas de tradition arabe, alors qu'il y a une tradition chrétienne qui correspond, par exemple, on sait très bien que la tradition, c'est une des sources de... Il y a la révélation et la tradition dans le christianisme, mais on peut se fier à la tradition. Tandis que là, c'est pas du tout ça. Ce sont vraiment des contes, et ce sont des choses qui ont été faites, des contes qui ont été faits par les califes. Et tous les... ces conteurs, hein, ces soi-disant historiens, en particulier ont écrit même 140 ans après les événements, ce qui effectivement, c'est tout simplement des gens qui écrivaient sous les ordres de, aux ordres des califes, hein, et qui avaient, évidemment, ils écrivaient ce que les califes leur disaient, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité.
Et quel calife d'ailleurs s'étripait joyeusement?
Oui, bien entendu. Enfin, ben, après, oui, c'est évident. Mais enfin là, nous sommes au début de l'islam, et les choses qu'on a écrites 140 ans n'ont absolument rien à voir, et là, ça a été démontré définitivement par ce chercheur, qui s'appelle Patricia Krohn, dans des livres qu'ils n'ont même pas traduits en français. Vous voyez donc le sérieux de la recherche scientifique historique en France. Hein. Bon, c'est ceux que ça intéresse. Elle s'appelle Patricia Krohn et elle a écrit un livre qui s'appelle Agarisme. H-A-G-A-R-I-S-M. Voilà, donc c'est... alors, il y a donc, à la suite de... Il y a aussi comme autre source, vous parlez des sources, il y a eu quand même des... Les sources arabes, donc, sont impossibles. Les biographies de Mahomet, ce qu'on appelle la Sirah. La Sirah, oui. C'est absolument pas fiable.
Pourquoi? Vous en parlez d'ailleurs, vous le...
Oui, bien entendu, j'en parle dans mon livre, et effectivement, je donne un aperçu de la version officielle pour indiquer un peu,
parce que le livre... Adjum de Chini.
Alors donc, ces sources, puisque les sources arabes ne sont pas fiables, les sources d'après, et puis surtout, les véritables sources, les témoignages, par exemple les diverses versions du Coran en particulier, parce qu'il y a plusieurs versions, ont été brûlées systématiquement par les califes, parce qu'elles ne correspondaient pas à la politique qu'ils voulaient faire. Et en particulier le personnage de Mahomet, c'est ça qui est intéressant, était complètement oublié à la fin du 7e siècle. Puisque les choses se passent, je le dis pour les auditeurs, entre cette conquête, cette entreprise de l'islam, se passe entre 614, qui est la prise de Jérusalem par les Perses, et 634, qui est probablement la mort de Mahomet, parce que quoi que certaines personnes disent qu'ils sont morts, certains chercheurs, enfin, qui est peut-être mort en 640, d'autres disent 632. 632, c'est officiel, mais enfin, qu'on parle de lui encore comme un... Il y a eu des témoignages qui parlent de lui après 632. Il y a eu quelques témoignages qui ont échappé à la dévastation des califes et qui ont brûlé systématiquement tous les documents. Alors parce qu'il y a des gens qui ont été témoins quand même, des Syriaques, des Grecs, et qui se sont rendus compte Pas tellement, parce que c'est un petit peu comme, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit, par exemple, quand la France a été envahie en 1940, on a été surpris par la soudaineté des événements. C'est un peu la même chose, ça a été une véritable tornade, et les gens n'ont pas eu le temps de s'en apercevoir et d'apercevoir l'importance de ce que faisait Mahomet. Ils se sont dit, c'est une razzia, c'est une autre razzia, puisqu'ils avaient
l'habitude de... Plus,
une de plus. Alors qu'en réalité, Mahomet, et c'est là son le caractère de cet homme, il a transformé l'Arasia en une véritable stratégie tactique et stratégie.
Ça, c'est un point de vue qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut, pas commettre l'erreur, le contresens chronologique. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu ça à l'époque, pour eux, c'était effectivement une succession d'Arasia de plus en plus victorieuse, de plus en plus nombreuse, de plus en plus suivie de prise de pouvoir, de prise de prise de gouvernement par des émissaires du chef des rasieurs. Mais et nous on
des généraux de Mahomet,
nous on voit avec le recul qu'il y avait une intention. Une intention qui était d'ailleurs portée par les événements, parce que Mahomet n'a pas décidé du jour au lendemain qu'il allait conquérir le monde. Ça s'est fait parce que ça gagnait comme ça.
Ça pas du tout.
Il
a décidé, non. Parce que Mahomet a eu carrément une intention de conquérir, en tout cas, la Palestine, déjà. La Palestine, vous connaissez très bien. La Palestine, la Syrie, et de conquérir les deux empires, les deux empires. Il faut savoir que les Arabes, ils étaient au service, en particulier les Arabes de la tribu de Mahomet, qui est la tribu des Coréchites. Alors ça ne s'est pas passé dans le Hedjaz. Ça s'est pas passé ça s'est pas passé à la Mecque, tout simplement parce que la Mecque n'existait pas en 632. Et ça, c'est une autre démonstration de Patricia Crone.
Maintenant, je crois que c'est connu, ça. C'est accepté, l'idée.
Vous savez, on parle toujours de la conquête de la Mecque. Même dans les textes officiels et du repli sur Médine, eh ben il n'y a pas pu avoir de repli sur Médine puisque la Mecque n'existait pas. La Mecque était dans un endroit d'ailleurs qui est un endroit qui est complètement insalubre et il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est des choses qui ont été. Alors donc oui, il y a le fameux puits de Zemzem. Enfin c'est pas grand chose. C'était pas une halte de caravane. Alors la Mecque est une décréation des califes. Alors donc ça s'est pas passé là. Ça s'est passé là où se passent toutes les choses. C'est-à-dire ça s'est passé en Palestine. C'est là où se passent toujours les... C'est là où se sont passés, où il y a l'argent, où il y a des centres culturels, comme on dirait aujourd'hui. Ben, les centres culturels, ils sont toujours au même endroit. Ils sont à Jérusalem et ils sont à Babylone. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, qui montre un peu la vivacité et la prospérité, justement, des colonies juives de l'époque.
Alors vous, justement, puisque vous évoquez cet aspect de la question, quel est votre opinion sur les travaux de Zacharias
Alors voilà, oui, vous parlez de Zacharias. Alors, il y a eu deux personnes qui ont eu une intuition de ce qui était passé. C'était Anna Zacharias. Anna Zacharias, c'était un dominicain.
Un prêtre, oui.
Ouais. Un dominicain, alors c'est passé en 1956. Et il a écrit son premier livre qui s'appelait le sous-titre c'était l'islam entreprise juive. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une remarque qui a été faite depuis très longtemps par les islamologues, que le judaïsme se retrouve entièrement dans le Coran. Hein. Bon, alors donc, il a montré ça. Et alors lui, malheureusement, il a plaqué une hypothèse là-dessus. Il s'est dit, il faut expliquer les choses. Et il pensait que le Coran était fiable. Parce qu'il n'avait pas fait d'études sur le Coran. C'est après qu'on a su que le Coran, il n'y avait pas Patricia Crone, n'avait pas encore démontré, fait ses démonstrations. Parce que Patricia Crone, ça date déjà d'il y a quand même 20-25 ans. Mais là, de 56, ça date de beaucoup plus loin que ça. Alors donc, son hypothèse, qui n'était pas sotte, il faut que s'il y a quelque chose qui est parti du Hedjaz, eh ben, qu'est-ce que ça pouvait être? Ben, c'était le rabbin de la Mecque. Hein, il y a eu un centre culturel à la Mecque, et s'appuyant sur le Coran, qui montre qu'à cet endroit-là, il y avait quelque chose. Alors donc, il s'est dit, il y a un rabbin à la Mecque, et il y avait un rabbin, puis il y a des chrétiens. Comme
lui, c'est qu'il n'y a pas de la Mecque.
Alors, lui, c'était l'hypothèse du rabbin de la Mecque. Alors évidemment, on lui est tombé dessus en disant, mais écoutez, il n'y a pas suffisamment de... Alors on a profité parce qu'évidemment là il s'est fait incendier par différentes personnes, en particulier par les chercheurs, hein. Les chercheurs arabes, juifs, etc., qui se sont dit que c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Et effectivement, il n'amenait pas, quand on lit, ce sont des intuitions qu'il a, effectivement, ça peut être une hypothèse. Mais alors justement, cette hypothèse peut être reprise avec d'autres, en utilisant aujourd'hui les découvertes qui ont été faites depuis. Alors, si on dit, bon, bah, c'est la Mecque n'existant pas, ça ne s'est pas passé dans le Hadjaz, ça s'est passé en Palestine, et bien à ce moment-là, ces intuitions peuvent être parfaitement, parfaitement justes. Et alors donc, on peut les reprendre. C'est ce travail, alors, ils ont fait ce travail là, qui quand même était un travail en particulier de comparer les textes du Coran avec le Talmud. C'était des plus de science à cette époque-là, les gens. C'était beaucoup plus sérieux que les chercheurs d'aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir à le dire. Alors ils ont fait un travail là en montrant exactement comment est-ce que ce travail du Coran, c'était une entreprise juive, parce qu'en réalité ils voulaient tuer le christianisme.
Oui, c'était
par exemple faire de
bloquer
Jésus,
l'expansion du christianisme
voilà,
dans les
faire de Jésus un simple prophète voilà. et qui n'est pas le fils de Dieu.
Subordonné.
C'est la meilleure manière de tuer le christianisme dans l'œuf. Bon.
Maxime Lenôtre, je vous remercie. On ne va pas développer tout votre livre parce que il faudrait. C'est des heures de conversation. Il faut le lire. Il est pas très très long. C'est une plaquette, 180 pages. Et vous le présentez demain à la librairie
samedi. Oui. Alors d'abord je voudrais dire hein, parce que les gens me demandent toujours mais enfin quelles sont vos coordonnées. Surtout bon c'est une, je dis tout de suite que c'est une auto-édition et c'est moi qui m'édite. Alors c'est ça s'appelle donc Maxime Lenôtre, Mahomet fondateur de l'islam. C'est BP boîte postale 16. 34-270, les Mattel, au prix de 22 € franco de port.
Les Mattel, vous l'écrivez comment?
MATTELES. Je répète quand même l'ensemble, parce qu'il y a des gens qui me disent après, mais effectivement, on n'a pas eu le temps de prendre, vous l'avez dit qu'une fois, le temps de chercher un crayon.
Mais c'est sur le, pour ceux qui utilisent Internet, c'est sur le,
alors, sur
le blog alors, de Radio Courtoisie.
Oui, et sur le site aussi de Maxime Lenôtre, sans point, Maxime Lenôtre qui se suit, @orange.fr.
Non, ça, c'est pas un site, ça, c'est votre adresse
oui,
email.
L'adresse mail, oui, c'est l'adresse mail. Alors, c'est...
on peut vous écrire.
On peut m'écrire à cette adresse mail. Alors, je répète, en tout cas, on peut le commander pour le prix de 22 € franco. Hein. Donc, c'est Maxime Lenôtre, Mahomet, fondateur de l'islam, BP16, 34-270, les Mattel. MATTELES.
Alors, je voudrais lire les dernières lignes du prière d'insérer, enfin pas du prière d'insérer, de la quatrième de couverture, parce qu'elle montre bien quelle est votre intention. C'est pas une intention hostile. Vous dites, le personnage de Mahomet acquiert dans ce livre une crédibilité qui lui faisait défaut jusqu'à présent, sortant de la légende pour entrer dans l'histoire, la vraie qui n'oublie pas la dimension eschatologique sans laquelle l'émergence et la puissance de l'islam sont incompréhensibles. Je crois que c'est effectivement un des aspects intéressants de ce livre, c'est que c'est pas un livre de fanatiques qui...
Pas du tout, c'est un livre d'historien.
C'est pas un livre de combat, c'est un livre d'historien. Voilà.
C'est-à-dire que c'est un livre qui tout simplement donne actuellement l'histoire, enfin, ce qu'on peut... Alors, j'indique une hypothèse, évidemment, j'ai ma propre hypothèse, parce que l'hypothèse d'Édouard-Marie Galès, à mon avis, elle ne tient pas debout, parce que c'est une hypothèse que c'est la petite secte des judéo-nazaréens qui occuperont. Alors là, il y a d'ailleurs un chercheur israélien qui a montré qu'à partir du 4e siècle, elles avaient pratiquement disparu, et je pense qu'une opération d'une pareille envergure, ce n'est pas une petite secte.
L'histoire des judéo-nazaréens, c'est une nouveauté. Enfin, c'est relativement une nouveauté,
oui.
Mais ça ne me paraît pas très, très sérieux. C'est à la mode en ce moment.
Oui.
On en parle partout.
Ah, oui, c'est-à-dire que c'est la thèse d'Édouard-Marie Galès. Ouais. Alors, Édouard-Marie Galès a fait une thèse qui est vraiment extraordinaire. Je veux dire, parce qu'il a une synthèse, mais à mon avis, il a fait une erreur dans là aussi. C'est un peu... Alors, les livres à lire, quoi. En réalité, il faut le lire. Il faudrait lire Alfred Louis de Prémard. Alors, je le mets dans une bibliographie succincte, parce qu'il n'y a pas grand chose qui soit vraiment sérieux. Il y a Alfred Louis de Prémard, les fondations de l'islam. Il y a Édouard-Marie Galès. Je dis pas Anna Zacharias, mais on ne le trouve plus. On le trouve dans les bibliothèques. Il y a Édouard-Marie Galès aussi, ça s'appelle, Le Messie et son prophète, aux origines de l'islam. Alors, c'est une thèse,
il y a Berthuel aussi.
Alors, Joseph Berthuel. C'est épuisé, malheureusement. Hein, Joseph Berthuel, c'était le disciple de Gabriel Théry.
Oui, oui.
Et c'était,
Gabriel Théry, c'est
Anna Zacharias. Mmh. Alors, ils ont fait un travail extraordinaire. Alors, ces livres-là peuvent, vous donner Et surtout le livre d'Alfred Louis de Prémar qui a traduit des textes, qui a traduit les chroniques de l'époque.
Et puis il y a une bonne approche, donc c'est Mahomet, oui, fondateur de l'islam, de Maxime Le Nôtre, voilà, qui est une porte d'entrée voilà.
Alors
facile,
je répète pour ceux qui n'auraient pas pu prendre, Maxime Le Nôtre, Mahomet, fondateur de l'islam, boîte postale 16, 34 270, les Mattel, c'est l'Héro, 34 270, les Mattel, au prix de 22 euros franco.
Merci monsieur Le Nôtre, merci beaucoup. Monsieur. Alors on n'a pas dit de mal de l'islam, mais on va dire du mal des francs-maçons maintenant. Oh, Maître Méry.
Pas nécessairement.
Non,
savez,
pas nécessairement.
J'ai eu un peu de recul depuis quand même. Hein. Les francs-maçons, oui, on pourra en parler. D'ailleurs, c'est assez amusant aussi dans mon histoire. Je crois que j'étais venu en 2002 déjà.
Oui, alors, Maître Bernard Méry était venu dans cette émission en 2002 parce qu'il était victime d'une cabale extravagante.
J'ai été tout bêtement radié, quoi, du barreau de Paris. Et je peux vous dire qu'être radié, ça fait un petit choc quand même.
Oui, parce que, pardon d'être indiscret, mais vous avez vécu de quoi alors pendant toute cette période?
Non, ça,
conseil
ça,
juridique
non, non, ça a été, ça non, a été. Non, non, j'avais fait quelques petites économies.
Ah bon?
Et je dois dire, même à la limite, entre nous, puisqu'on n'est qu'entre nous, j'en ai profité pour faire un petit voyage autour du monde.
Ah bon,
et je me suis dit, il fallait absolument, parce que je savais très bien que cette histoire ne tiendrait pas debout, puisque s'il y avait des juges. Et justement, la réponse, c'est qu'il y a des juges en France. Mais où se trouvent-ils? Et ce qui est important, c'est qu'ils se trouvent souvent très haut, c'est-à-dire à la Cour de cassation. Je dois ma survie à la Cour de cassation, où vous avez des juges qui sont arrivés en fin de carrière, et souvent les meilleurs d'ailleurs, faut reconnaître, et ce sont des juges qui n'ont plus, qui sortent un petit peu des réseaux, qui n'en ont plus besoin.
C'est quand même terrible.
C'est un peu comme ça. Alors, si vous voulez, en trois mots, parce que de toute façon, j'en profiterai pour dire que j'ai un site, donc tout le monde peut y aller. Mon site, je le donne tout de suite, c'est bernard.mery sans accent.
Avec Y.
Avec un Y, M-E-R-Y. Et puis, vous avez .free.fr. Voilà, c'est simple. Vous avez tout et tout ce que j'ai pu vivre. Parce que c'est quand même une aventure extraordinaire dans la mesure où il n'y a pas un seul avocat en France depuis le début de tout le temps, depuis qu'il y a des avocats. Et Dieu sait, ça remonte loin, puisque à la Fronde, vous savez que les avocats de Paris ont été privés de l'épitoge d'Hermine, puisqu'ils avaient fait la Fronde. Donc ça remonte très loin. Aucun avocat n'a été radié, puis revenu ensuite par la force de la loi et des juges.
Il y a des rencontres, on parlait tout à l'heure de coïncidence, ou plus exactement de synchronicité avec Jean-Paul, Jean-Paul Leperlier. Et d'une certaine manière, bon, avec toutes les proportions, vous êtes un personnage dans le genre de Wedlich. C'est-à-dire que vous n'avez pas calé une seule seconde. Six ans, vous avez bagarré.
C'est-à-dire que j'ai
contre toute espérance.
Vous avez été exclu pendant six ans.
Non. Alors justement, je vais reprendre un petit peu, rapidement.
Oui, non,
très j'ai été radié. Radié, c'est mis sur un mur et on vous fusille. C'est-à-dire que vous n'existez plus.
Oui.
Plus de robe. Mais une cour d'appel assez rapidement après a remis à dit cette radiation, elle est tellement artificielle qu'ils en ont fait une interdiction de deux ans avec un an de suspension. C'est-à-dire, si tu recommences, t'as un autre an qui tombe dessus, donc tu vas te taire.
Oui.
Et moi, on est venu me voir en disant, mais acceptez, c'est la bénédiction du ciel, puisque vous étiez mort et voilà que vous vous ressuscitez, mais évidemment, il faut bien quand même que vous acceptiez une petite condamnation. Moi, devant l'absurdité des cas, parce qu'il faut que je vous le dirai très très rapidement, pourquoi on m'a radié.
Oui, parce qu'il faudrait commencer par ça, on ne sait pas pourquoi.
Voilà, alors pourquoi on m'a radié? Eh bien, on m'a radié parce que, alors il y a ce qui est officiel et ce qui est caché. Et c'est intéressant parce que si on m'invitait aujourd'hui, et je remercie aujourd'hui de m'avoir invité, c'est que je viens d'obtenir un jugement de réparation de l'État. C'est-à-dire que l'État vient de condamner l'État, d'ailleurs, plutôt l'État vient de condamner l'État, les juges, un jugement extrêmement intéressant à lire. Et il est intégralement, donc on peut le lire, mais il est extrêmement intéressant parce qu'il répond en même temps, vous voyez, le sujet est vaste, il répond à l'affaire Doutreau et aux lois qui ont été refusées. Et les juges disent, mais enfin, nous sommes, de par la République, compétents pour éventuellement voir la faute des juges.
Oui.
Alors, Pourquoi j'ai été radié? Eh bien, parce que j'avais écrit deux livres. Ça, c'est la face cachée. Pourquoi? Parce que j'avais écrit deux livres. Le premier, c'était Justice, franc-maçonnerie, corruption. Vous voyez, là, un petit peu le lien qu'on peut faire. Oui. Et j'avais fait une suite qui était encore plus documentée, qui était Les nouveaux parrains.
Le troisième que vous n'avez pas écrit, c'est Comment se faire des amis.
Je dois dire que j'étais un peu échaudé, vous le comprendrez.
Oui.
Et que, pour l'instant, même si je continue à me battre et que je suis de nouveau attaqué par l'ordre des avocats, et je sors aujourd'hui encore d'une, parce que j'ai fait une suspicion légitime, enfin bon, on verra plus tard. Alors, quelles étaient les causes? Bien, les causes, c'est parce que je faisais mon métier d'avocat, c'est-à-dire, j'avais pour principe de... Tout avait commencé très rapidement, mais ça serait peut-être trop long. Simplement, on était à une époque, en 98, où le Figaro rapportait ce qui se passait, le débat qui était en Angleterre, avec le ministre, il y avait déjà Tony Blair, et puis il y avait Stroh, qui disait il faut absolument que les magistrats disent s'ils sont ou pas francs-maçons.
Oui,
ils l'avertissent. Pourquoi? Tout simplement parce que les francs-maçons ont un serment qui est incompatible avec le serment de la République ou de la royauté. C'est le serment du franc-maçon, c'est que dès lors que je me trouve en France d'un franc-maçon, je dois lui donner raison.
Je ne peux pas attaquer, c'est ça.
Donc, j'ai eu l'audace, peut-être la bêtise, pourquoi pas, parce que j'aurais dû me taire, j'aurais pas eu tous ces soucis, de dire à un magistrat, est très haut placé dans la 11e chambre de la Cour d'appel, qui est une chambre politique, puisque c'est celle qui juge des diffamations, vous savez, sur les appels de la 17e, qui est purement politique, cette loi contre la presse, c'est faisons taire ceux qui ne sont pas dans la ligne, et laissons parler ceux qui le sont. Et surtout, tuons avec de l'argent les pauvres éditeurs ou ceux qui font un peu de papier. On sait qu'on a de la misère là-dedans. Et j'ai été moi-même condamné avec ces bouquins à 10 procès. Je ne vous dis pas la somme que ça fait. J'ai pu tourner le coup. C'est d'ailleurs à leur grand étonnement. Enfin, peu importe. Peu importe. Donc, j'ai été officieusement, c'était cela. Et officiellement... Comme il n'y avait pas un fait qui pouvait m'être reproché, ils ont globalisé 18 faits. Alors, 18 faits, c'est à assigner un juge en correctionnel, parce que ce juge avait commis des fautes correctionnelles, à assigner en responsabilité des juges qui avaient ruiné des pauvres gens, etc. Il y avait une dizaine d'affaires comme cela. Et puis, il y avait 4 affaires qui étaient du genre à marcher sur le pied d'un confrère, lui a fermé la porte au nez. Alors, comme chaque fait ne pouvait pas être, parce qu'il fallait que ça soit contre l'honneur et la probité, voilà les mots.
Oui.
Alors, comme chaque fait ne servait pas, ils ont dit, tous ces faits réunis constituent des fautes contre l'honneur et la probité, le danger pour la profession. Quand on voit un bâtonnier de l'époque, on peut pas dire son nom, hein, sinon on va avoir des ennuis. C'était Yvins, parce que vraiment Yvins qui me voit je venais juste d'être radié, qui me dit, j'ai particulièrement insisté pour que vous soyez radié parce que vous êtes un danger pour la profession d'avocat. Alors voilà, donc c'était sur ça. Alors,
au moins il n'est pas hypocrite.
Ah non, il n'était pas hypocrite. Alors moi j'étais étonné, parce que c'est un petit scoop ça, mais j'étais étonné, moi qui ne suis pas franc-maçon, je le dis parce que c'est normal que je le dise, je ne suis pas. J'étais étonné que ma radiation ait été annoncée comme une victoire par le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Alors je me demande à quel titre le Conseil de l'Ordre de France pouvait dire qu'il avait obtenu. Et il donne une autre version, une version que... Alors, pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que ce Conseil de l'Ordre date de 2003, mais vous savez que récemment, vous avez eu le président à la mandat, le président de la Cour de cassation, qui a dit que lui n'était pas franc-maçon. Et vous voyez, j'ai dû faire quand même quelques émules. Mmh. On commence à dire, moi je ne suis pas franc-maçon, et d'ailleurs, la mandat était celui qui a fait un rapport incendiaire sur le juge Renard, qui avait été dénoncé par Montgolfier, vous savez, ce juge qui avait une garde de triage, qui renseignait tous ses frères. Et donc, il est un de ceux qui a pu éliminer ce juge Renard qui était un traître. Il faut voir les choses en face. Eh bien, je lis, à ma grande surprise, et c'est récent, puisque l'information du Nouvel Observateur du 1er juin 2007, que le grand maître du Grand Orient de France, qui s'appelle Jean-Michel Quillardet, eh bien, s'offusque de ce que a pu dire la mandat contre les francs-maçons, et avec leur tradition habituelle, dès lors qu'on attaque un franc-maçon, eh bien, c'est qu'on attaque les juifs. Alors,
ah, oui, tout à fait.
Alors
oui.
Qu'est-ce qu'ils ont? Non, les Juifs,
oui.
Les Juifs.
Ah, oui,
qu'est-ce
oui.
qu'ils disent? Et moi, on m'a traité d'antisémite. Oui. Parce que je n'attaquais pas les francs-maçons, mais j'attaquais le dysfonctionnement de la justice française, qui continue d'ailleurs allègrement. Mmh. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est intéressant, parce que, voyez-vous, Lamanda, le premier président, prend la suite de Ken Yvet, qui lui est un jeune élève, grand ton et grand A, qui a toujours protégé tous les francs-maçons. Il va y avoir certainement un changement. Un changement, parce qu'avec Lamanda, qui ne peut pas être, on peut plus changer. Il est là à sa place. Mmh. Je dis, et c'est intéressant, car Lamanda était l'ancien président de la Cour d'appel de Versailles, et c'est la Cour d'appel de Versailles qui a infirmé l'arrêté de la Cour d'appel, c'est-à-dire c'est la Cour d'appel de Versailles qui a fait de moi un avocat non radié, rétroactivement. Et alors, donc, pourquoi je vous donne ça? Parce que quel est celui qui a annoncé sa grande victoire? Et au grand maître qui était alors, qui était Boer, qui d'ailleurs fait partie du gouvernement de Sarkozy maintenant.
Enfin, hein. De l'entourage.
Oui, de l'entourage en tout cas. Eh bien, c'est Jean-Michel Quillardet, qui est avocat au barreau de Paris, qui par ailleurs me poursuit pour des fautes professionnelles soi-disant, où il me demande 1 500 000 euros de dommages et intérêts. Je serais un très mauvais avocat. Et c'était lui qui était venu annoncer au grand maître, et donc au conseil de l'ordre, qu'il avait gagné ma radiation, au motif que j'avais écrit une lettre qui avait été jugée un petit peu outrancière à l'ancien grand maître qui s'appelle Guglielmi à l'époque. Donc, si vous voulez, en sous-zone, on sait que qui est-ce qui a demandé ma radiation? Eh bien, c'est le futur grand maître du Grand Orient, pour une lettre que j'avais de lèse-majesté ou de lèse-grand-maître, qui était à Guglielmi, et c'est donc l'Orient de France.
Enfin, mais pour qui ils se prennent?
Ils se prennent pour ce qu'ils sont. Ce sont eux qui ont créé cette République, ce sont eux qui sont le véritable pouvoir.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Cour de cassation, évidemment, a cassé sans renvoi 14 faits, parce qu'ils avaient déjà été jugés en ma faveur, et subitement, ils étaient jugés contre moi par les mêmes juges, vous voyez. Et puis, les 4 derniers, qui avaient été dits globalement contre l'honneur, ont été jugés quand je marche sur le pied d'un confrère, ça n'a rien contre l'honneur, ce n'est pas assassiner la petite fille ou voler une banque. Contre l'honneur, c'est quand même l'honneur, c'est le vol, c'est le détournement de fonds, c'est violer quelqu'un, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec une lettre un petit peu incendiaire. Alors, j'ai donc gagné tout ça, et en même temps, maintenant, les premiers, et je ne croyais jamais obtenir ça. Rendez compte que j'ai fait juger par des juges parisiens lors des avocats de Paris pour son incompétence, et c'est très très intéressant parce que vous avez des juges qui non seulement répondent à cette demande, vous savez, de loi spéciale dans l'affaire Dutroux, qui a été une véritable catastrophe, mais je le répète là encore, je l'ai dit ailleurs, je le dis aujourd'hui, l'affaire de Dutroux n'aurait jamais eu lieu s'il y avait des avocats qui en avaient, c'est-à-dire des avocats compétents. Moi, pourquoi j'ai été justement radié? C'est parce que quand un juge d'instruction faisait pas son boulot, j'assignais le juge d'instruction correctionnel, qui comprenne lui aussi ce que c'est d'aller un petit peu en correctionnel. Et donc, évidemment, c'était renverser les rôles. C'était mettre les juges lorsqu'ils faisaient des fautes. Bien entendu, il faut pas être quelqu'un qui veut brûler tous les juges. La preuve, vous avez des juges extraordinaires, et je vais peut-être citer comme l'ordre du président, parce que au moins qu'on sache qu'il y a un président qui s'appelle Monsieur Jacques Gondran de Robert. Déjà, rien que le nom me plaît,
oui,
et je dois dire que cet homme-là, qui est vice-président, et je pense qu'avec ce jugement, sa promotion va certainement être obérée, car je dois vous dire ici que le premier président qui avait échangé déjà ma radiation avec en deux années, dont une avec sursis, m'a pris toujours dans les couloirs, et je suis encore passé devant lui aujourd'hui, m'a pris dans le couloir en me disant, vous ne vous imaginez pas, je me suis fait incendier par l'ordre des avocats pour avoir ôté votre radiation, et ça vaut ma carrière. C'est-à-dire que maintenant, il était président de la première chambre, il n'est pas passé, il n'est pas passé à la cour de casse. Oui. Il me dit ça, et je suis passé aujourd'hui devant lui, parce que je vous le dis, c'est un scoop, c'est que, Il recommence.
C'est incroyable.
L'ordre des avocats commence, et tenez-vous bien, il recommence en reprenant les mêmes motifs que dans leur arrêté de radiation. Et alors qu'il plaidait aujourd'hui...
Mais une chose jugée ne peut pas être jugée, quand même.
Non, mais il recommence différemment. Ce sont des auto-juges.
Ouais,
comprenez, c'est un scandale. Vous comprenez qu'actuellement, tous les autres avocats de France ont des juridictions départementales. On essaye d'éloigner l'avocat des heurts qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'un barreau. Donc il y a eu un tribunal d'avocats, si vous voulez, un conseil de l'ordre qui est départemental ou régional. La seule juridiction disciplinaire qui est restée entre les mains des avocats de France, c'est l'ordre des avocats de Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez une ligne de lobbying qui fait que les avocats de Paris sont tellement riches. Il y a à peu près 30 000 avocats, vous imaginez, pour 2 millions d'habitants, et les cotisations sont de 3 000 euros, enfin, et même plus, ça dépend de combien on gagne, plus les codes, des gens qui sont repus à n'en plus finir, qui font des fêtes à n'en plus finir, sur nos frais, et qui ont les moyens de faire en sorte que le législateur fasse une exception. Alors que, pourquoi on a fait des juridictions d'ordre départemental et régional? On l'a fait parce qu'il fallait s'adapter à la règle de le droit de l'homme et de faire l'impartialité, garantir aux avocats à la fois l'impartialité et l'équité. Or, comment voulez-vous qu'un bâtonnier, qui est votre adversaire, que vous rencontrez, contre lequel vous plaidez, puisse être à la fois impartial et répondre à l'équité alors qu'on règle des comptes? Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Voilà des gens qui viennent d'être condamnés à 90 000 euros pour me payer de ce qu'ils ont fait, et que font-ils aussitôt? Ils remettent en route. Pourquoi? Parce qu'on m'épuise. On m'épuise en ma défense. Personne ne veut me défendre, parce que dès que un avocat est venu pour me défendre, on lui a fait des menaces.
C'est incroyable.
On est dans une mafia. On est dans une mafia actuellement. C'est toujours les mêmes. Et pourquoi aussi j'ai été radié? Parce que je m'étais présenté aux élections et que aux élections, j'avais obtenu tout de suite 10% des voix, qui était énorme pour Paris. 10% des voix. Et que pire, des journalistes m'avaient averti que j'étais élu, qui m'avait dit à un moment donné, vous avez 1780 voix, vous êtes élu, qu'est-ce que vous...
Au Conseil de l'Ordre.
Au Conseil de l'Ordre de Paris. Et c'est après que j'ai été radié. Et comme par hasard, l'ordinateur s'est bloqué avant les élections.
Ça, c'est
bout de 3 heures d'interruption, ce qu'on n'avait jamais vu, un ordinateur qui ne fonctionne plus, je n'avais plus que 687 voix. C'est alors, j'étais plus élu.
Comptable.
Et à la fin, c'est-à-dire ça, c'est en novembre, et en décembre, je suis radié. Comme ça, il n'y a plus d'élection. Alors, inutile de vous dire que mon ambition d'être membre du Conseil de l'Ordre s'est atténuée, que je me bats encore actuellement. Tout à l'heure, je suis passé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient une sorte de chèvre, un avocat chèvre, qui va vous exciter. Alors, je défends un client contre l'administration des impôts, c'est-à-dire l'État. Et cet avocat, dès que je fais une défense, un acte de défense, une action, va dire que c'est dilatoire et c'est diffamant et c'est contre l'honneur. Il va faire une lettre de plainte en disant « ouvrez, ouvrez ». Au bout de la 6e lettre, vous n'en pouvez plus. Et moi, j'écris à ce confrère, votre 6e lettre de dénonciation, fleure bon les lettres de dénonciation de la Gestapo. Hein? Et alors aussitôt, vous avez attenté à l'honneur de cet avocat qui lui est barré évidemment des deux signes de la franc-maçonnerie qui sont la décoration bleue et la décoration rouge. C'est surtout pour des avocats. Qu'est-ce qu'ils ont? La Légion d'honneur pour un avocat, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein?
Il a fait. À partir du moment où on la donne à Henri Commessa, ouais. Je vois pas pourquoi.
Oui, d'accord. Mais alors pourquoi pas un avocat? Non, un avocat, c'est simple. Il faut qu'il remplisse au bout de 10 ans, il remplit quelque chose. Et puis il a deux parrains, les nouveaux parrains. Et puis il va l'avoir. Voilà. Alors tous les gens sont bâtonniers parce que quand ils sont bâtonniers, ils ont automatiquement la Légion d'honneur avec la rosette. Bon. Alors c'est content. Donc celui-ci va se plaindre. Et j'ai bien entendu une plainte cette fois-ci qui s'ouvre. D'une part parce que j'écris cette lettre. Alors c'est plus fleur bon, c'est-à-dire ressemble à, mais ça devient à comparer l'avocat à un traître dénonçant à la Gestapo les juifs. Vous voyez, hein? Ça, et puis pour en rajouter un peu, mais sans instruction, sans rien, ils reprennent les motivations des premiers juges qui viennent de perdre en disant, et plus généralement, pour son aptitude à attaquer sans raison les magistrats et les experts, alors que là, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Voilà, je voulais vous dire qu'il y a ça, j'ai fait donc une suspicion légitime, ça me paraît légitime de faire une suspicion, de dire, je ne peux pas avoir d'impartialité de ces juges qui m'ont déjà jugé, et eux s'y opposent en disant, mais... attendez, nous sommes indépendants, hein, le bâtonnier n'a rien à voir avec nous, ce sont les mêmes juges qui m'ont condamné. Bon, enfin, écoutez, tout ça, c'est de la rigolade, mais je crois qu'il faut le dire.
Ah oui,
il faut qu'on sache simplement qu'à Paris, vous avez des avocats qui sont martyrisés parce qu'ils défendent leurs clients. Et que moi, c'est pas parce qu'on me martyrisera que je ne défendrai pas mes clients, mais je le fais à mes risques et périls, et je me bats, mais il est évident que je ne peux pas, évidemment, me consacrer à 100% à mon travail, donc, parce qu'ils me prennent, eux, 30 à 40% de mon temps. Voilà ce que je voulais dire, mais tout ça est sur un site, et il y a une chose quand même intéressante, ce jugement va faire jurisprudence, parce que vous avez des juges qui disent, la justice en définitive étant rendue de façon indivisible au nom du peuple français, indivisible, qui est un pour toute la République, c'est-à-dire le peuple français, il est un pour toute la République, il n'appartient qu'à l'État de répondre des dommages pouvant résulter pour les usagers de la justice, de l'exercice de la fonction de juger. Ça répond directement à la loi où ils disent que c'est leur métier de juge et c'est l'État qui doit répondre parce que l'État est responsable de la qualité de ses juges, comme il est responsable de la qualité d'Outreau. C'est inadmissible, vous comprenez Outreau, pourquoi il s'en tire, le brave juge ? Parce qu'il est défendu par les deux piliers de la franc-maçonnerie, qui sont Dupeu d'un côté, et l'autre, c'était Spinner, GNLF et Grand Orient. Et lui, pourquoi il est défendu et pourquoi il s'en tire bien avec Canivet ou la même... Vous rendez compte, ce type quand même qui a porté à la mort des gens. Il y a des gens qui sont morts. Il y a un prêtre qui a été d'ailleurs que j'aimerais bien défendre, mais bon.
Ouais, c'est une histoire assez effrayante, l'histoire.
C'est effrayant. Il y a eu des gens qui ont été condamnés à la mort.
Les effets sur l'opinion publique ont été ravageurs parce que on a vu là que enfin tous les Français ont été témoins d'un phénomène qui d'ailleurs est inconnu des gens, puisque je vois un auditeur nous dit « Je ne savais pas qu'il était possible de traîner un juge en correctionnel, pouvez-vous le confirmer ?» Mais
bien entendu.
Bien sûr. La plupart des gens pensent qu'un magistrat, c'est quelqu'un d'absolument intouchable, on ne peut absolument rien.
Alors c'est récent, hein, ça date de 94. Ouais. Depuis 94, on peut traîner un juge en correctionnel. Et puis, alors le problème de la responsabilité des juges, c'est autre chose. Car... c'est l'article L780 du code du COJ, qui est d'ailleurs un autre article, pour ceux qui voudront regarder, qui est également l'article L141.1 du COJ. Là, on doit mettre en cause non pas le juge, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que les juges s'en moquent, c'est qu'on doit mettre en cause l'État et démontrer la faute lourde du juge, voyez, qu'une faute lourde ou un déni de justice. Or, ce jugement-là encore apporte des précisions, car il dit « constitue une faute lourde, activité juridictionnelle comprise ». Alors voilà, c'est là le mot important. « Toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service à remplir sa mission ». Je répète peut-être « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service à remplir sa mission ». Ça veut dire que le juge a dit que les conseils de l'ordre de Paris étaient inaptes à remplir sa mission. Mmh. Et que donc c'est ça la faute lourde. Mais, et ça sera pour, je finirai, parce que je crois que vous faites dire, et c'est le bouquet, c'est qu'aurait été l'État est condamné, et il a ensuite une action récursoire contre les juges qui n'exercent jamais. Donc les juges s'en foutent. Voilà.
Alors pour en savoir plus, donc, on peut se reporter à vos livres qui restent d'actualité fort intéressant, et puis à votre site internet.
Tu renvoies à tout, il y a le site voilà. bernard.mairie.
Il faut donner les maisons d'édition pour que les gens puissent trouver le livre.
Oui, non mais
c'est sur le site.
Tout est sur le site, voilà. Donc c'est pas la peine de perdre notre temps.
Bernard.
Bernard.mairie, M-E-R-Y. .fr2e.fr.
Merci
et vous avez tout.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous vouliez nous dire quelque chose, éditorial?
On nous demande de rappeler le nom de l'auteur du livre et enquête sur un survivant illégal, ainsi que l'éditeur.
Non, c'est ma femme Sophie Chervet sur une enquête de Jean-Paul Lepergue.
Sophie comment?
Sophie Chervet.
Comment vous l'écrivez?
C-H-E-R-V-E-T.
D'accord.
Mais je voulais vous dire un sujet là tout à l'heure. Plutôt que de demander d'être inculpé, il aurait mieux fait de demander d'être témoin assisté.
C'est l'erreur de droite.
Oui, oui, c'est vrai. C'était pas son. Et donc, attendez, et ce sont les éditions Guy Trédaniel qui sont 19 rue Saint-Séverin. Je pense qu'on parlera de Leribou une autre
fois. Oui, alors, je voulais te proposer de revenir.
Oui, non, parce qu'on ne peut pas bâcler Leribou comme ça. Mais je suis enchanté que nous ayons. Non, au contraire, c'était absolument passionnant et je suis vraiment. Personnellement, j'ai entendu avec énormément de plaisir. Simplement, je me demande qu'est-ce que vous pensez des juges qui sont syndiqués au syndicat de la magistrature. Excusez-moi, ben oui, mais.
On n'a plus le temps.
Alors, quel dommage.
Il reviendra la prochaine fois.
Sur ces juges-là?
C'est vrai.
Oh, ben écoutez, là encore, tous les juges que j'ai attaqués souvent étaient de ce fameux syndicat.
Même chose, oui.
Vous savez, dans la justice, il y a des filières. Si vous êtes dans la filière, vous progressez. Si vous n'êtes pas, vous êtes exclu.
Ah, voilà, tout à fait, c'est ça.
Oui. Alors, Victoria.
Si vous êtes très brillant.
À propos de.
Avant d'aller.
Merci. À propos de Natural Source International, au téléphone, il faut appeler à partir de 15h le numéro 001 212 308 70 66 et un interlocuteur qui parle français vous répond. Et puis c'est le premier dimanche de septembre au couvent de Recouvrance à Sainte, qu'aura lieu, c'est ça?
Je l'ai dit déjà.
Oui, non, mais c'est, on nous l'a demandé plusieurs fois. La réunion d'anciens malades.
Alors, il faut dire quand même une dernière chose, attendez, excusez-moi, c'est qu'on m'a déjà fait remarquer ici que les gens ici ne supportaient pas le nombre d'appels de gens qui appellent après qu'on ait parlé de Beljanski, donc ils appellent à ces numéros-là, justement, pour laisser la paix aux gens qui sont là-bas.
Et à l'entracte, on est passé la matchiche avec Agustin Barrios à la guitare. Voilà.
Merci. Bonne soirée, bonne semaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 13 juin 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 14 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Volontaires et officiers blancs, et votre arrosie la honte de l'Occident, et votre arrosie la honte de
Radio Courtoisie.